T'inquiète pas.
Je te rappelle que l'autre fois on avait oublié. Tiens, je te remets ton papier de bloc.
J'ai pas un fil à la patte, j'ai un fil dans la poche là.
Ah, t'as 5 heures d'enregistrement donc.
Ce musée, c'est la résidence de qui?
Alors, historiquement, c'était, je ne sais plus, il y a la borne à l'extérieur. Ça n'avait pas un gros intérêt au niveau historique, mais c'est intéressant depuis surtout que ça a été transformé en musée. Hein. Mmh. Parce que c'est quand même le musée ici qui est la mémoire de Montmartre, des artistes, du bateau Lavoir, etc. Et ils détiennent une partie en plus des scènes du théâtre d'ombre. D'accord. Donc des premières silhouettes dessinées par Lautrec. Il y en a une partie qui est entre les mains d'un collectionneur privé que j'avais rencontré, quelqu'un qui s'occupe de la défense du Vieux Paris aussi. Et c'est bizarre parce que ça a été disséminé un petit peu partout. Alors ça a été disséminé pourquoi? Parce que en 1898, à la fin du deuxième chat noir, et à la mort de Salis, toute la collection du chat noir a été vendue en salle des ventes. Ça a été complètement dispersé. Il se trouve que je sais à peu près ce qu'il y avait. Pourquoi? Parce que l'un de mes amis et ancien élève m'avait offert le catalogue du chat noir, qui est extrêmement rare, dans lequel on voit l'ensemble des pièces qui existaient. Alors il y a du texte aussi, mais et il y a une reproduction notamment du fameux tableau de Stenheim que vous allez voir en couleur, mais qui dans le catalogue est en bleu, qui s'appelle l'apothéose des chats. Et ça, là, je pense que ça va être, c'est peut-être la partie la plus intéressante de la visite, c'est que vous allez voir à ce moment-là que les peintres de l'époque se contentaient pas de faire de la peinture de genre, ils peignaient également avec des trompe-l'œil.
Et t'as pas commencé, moi?
Non, j'ai pas commencé.
Je vais demander le dossier de presse.
C'est très inquiet, là.
Tu l'as eu?
Oui. Voilà le dossier de
presse. Ils n'ont rien, quand même.
Un peu épais, pas trop le rapporter, ça ira?
Là, c'est pas trop le rapporter. Voilà.
À la limite, j'ai plus complet que ça, si tu veux.
Non, mais on mettra sur le site.
D'accord. Non, mais il faut que je rencontre le nouveau président de l'association. Parce que d'ailleurs, c'est convenu, on doit se rencontrer, on doit se voir, mais j'ai pas eu le temps jusqu'à présent.
Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vous êtes
gentil. Vous n'avez
pas pu vous en servir.
C'est un endroit qui ne peut, c'est un endroit qui ne peut vivre que s'il y a de l'événementiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'avoir des expositions permanentes ou temporaires, il faut également que ça vive. Et pour que ça vive, il faut des manifestations culturelles, tout simplement. Et si on reste dans le domaine de la manifestation classique avec conférences historiques, ça ira pas loin, ça n'intéresse personne, hein, au bout d'un moment. Donc il faut quand même susciter l'intérêt. Et moi, la cible que je viserais, justement, ce sont les écoles de jeunes artistes, pour commencer. Parce que ceux-là, ils ont besoin de savoir ce qu'ils faisaient dans le temps. Comment on ne l'enseigne pas? C'est le moment où jamais de l'enseigner. Et vous allez voir que là, il y a de quoi s'étonner. Donc on y va.
Tu vas refaire une, Richard.
Oui. Tu vas avoir des beaux tableaux là. D'accord? Avec des chats. Plein de chats.
C'est une sculpture de qui ça, Richard?
C'est Janus.
C'est le sculpteur ou...
Je ne sais pas s'il y a son nom quelque part.
Ce que tu me disais, effectivement, c'est peut-être ça, de Cocteau, avec le testament d'Orphée. Ou...
Peut-être, oui, parce qu'il y a une exposition Cocteau. Ouais. Donc c'est pour ça, oui. Mais c'est même pas Janus, parce que là, c'est trois visages. C'est la triple et quatre. Ouais. C'est la lune.
On n'a pas le droit aux photos, hein.
C'était
pour la kermesse ce matin,
oui. On n'a plus le droit. Quoi qu'à l'époque, m'ait fait un cirque. J'avais réussi à photographier le tableau. Mais surtout, vous n'en servez pas. Non, c'est la première chose que j'ai fait, je m'en suis servi. Et maintenant, il est partout sur le net, tu vois, sans copyright, sans rien. Parce que, disons, sur le net, comment tu veux retracer un copyright? C'est pas possible, à part les œuvres vraiment modernes.
Je suis passé à Saint-Étienne-du-Mont, là, essayons de voir
le Christ sur un dauphin.
Ouais. Caché. Il y a le buffet d'orgue.
Il n'y a aucun moyen de voir.
Bah non, non, non. T'as le buffet d'orgue.
Et même par l'extérieur.
Bah c'est normal puisque la, côté, la voie humide a été remplacée par l'arbre du vin. On va commencer par. Peut-être par l'apothéose des chats en haut. Il y est toujours. L'apothéose des chats de Stenlen.
Non, non.
Il n'y est plus. Il est reparti à Genève.
Peut-être, elle est pas là de toute façon.
Vous êtes en haut ?
Bon, ben, on va passer par le bras là.
Tout en bas ?
Non, non, là.
Là ? Vous avez un ticket ? D'accord.
Bon,
okay.
Alors j'avance.
Alors là, c'est bon.
Ah, dommage. On aura appris des choses.
Madame ?
On vous aura appris des choses. Avec une carte de terre.
Ah ben ils nous ont retiré. Je l'ai sur internet. Ouais, puis attendez, attendez, attendez. Ben, parce qu'il était prêté par Genève.
Ah, non, pas Genève, c'est l'été, c'est l'hiver. On est en Genève. On va essayer de trouver. Tu me dis qu'elle nous est. Je croyais que les paniers avaient suffi. On pas. Arrête de manger tout le temps. T'es terrible, toi. Hein.
Non, je l'avais pas là-dedans, je crois pas. Oui, ça, c'est mon bouquin. Je vais sans doute le rééditer parce que. Je crois qu'à l'époque, je ne l'avais pas dedans. Donc, c'est pas grave. C'est le chat noir, c'est le tableau de. Ça s'appelle l'apothéose des chats de Stenlen. On a récupéré tout un petit monde. Tu veux m'enregistrer aussi ?
Oui.
Donc vas-y.
Vaut mieux en prendre deux si on a un qui est raté.
Oui, alors, je vais vous inviter déjà à regarder cette grande toile de Villette.
3, 4.
Je vais vous inviter déjà à regarder cette grande toile de Villette qui s'appelle le Parche Illuminé. C'est la première toile en fait qui a été déposée au cabaret du Chat Noir à l'époque. Alors je pense que vous le savez parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse, mais il y a eu quelques démêlés encore au niveau de la mairie de Paris. Ils ont débaptisé le square qui portait le nom de Villette, parce que Villette, au moment des élections au XIXe siècle, s'était présenté sur une liste considérée comme antisémite. Alors évidemment, tout ce qu'il y avait d'union contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Ont émis des protestations en disant ce square, de toute façon, il faut le débaptiser. Alors ils l'ont débaptisé, sauf que je suis rentré en bagarre avec eux à l'époque, en leur expliquant que le contexte historique de cette époque, il ne s'agissait pas d'un antisémitisme primaire, mais lors de l'affaire Dreyfus, le milieu intellectuel était très très divisé sur cette affaire. Pourquoi ? Simplement parce que d'abord on considérait que Dreyfus était un pisse-froid et pas très sympathique, que c'était une histoire entre la grande muette, c'est-à-dire l'armée, et un officier, et qu'on ne voulait vraiment pas se prononcer, on disait finalement qu'ils lavent leur linge sale en famille. Et outre ça, il y avait des raisons beaucoup plus politiques et beaucoup plus. Des questions de mémoire. Les gens à l'époque se souvenaient encore qu'au moment du gouvernement, du drame de la Commune, très honnêtement, les communards sont allés à la Banque de France en disant on a besoin de payer la garde civile, est-ce que vous pourriez nous avancer de l'argent ? On leur a royalement avancé 15 millions, c'était du franc or à l'époque, on leur a demandé de souscrire des billets à ordre pour le remboursement. Et dans le même temps, on allongeait 135 millions au gouvernement de Versailles qui n'était pas légitime pour écraser la Commune. Donc, ce qui était visé à l'époque par Villette et par ses amis, c'était surtout la banque israélite. ce qui n'avait rien à voir avec la population juive de Paris ou de France. Donc c'était, à mon avis, la mairie de Paris a fait un espèce de procès d'intention, mais c'est vrai que ça rapporte toujours à l'heure actuelle d'être pour ou contre quelque chose. Il y a toujours des visions politiques, de base politique, hein, c'est toujours ce qui est derrière. Alors, Villette, c'est quelqu'un qui vivait en ménage avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Il adorait peindre des pierrots et des pierrettes. Alors là, c'est une immense allégorie. C'est une allégorie qui met en garde les jeunes gens qui ne doivent pas s'amouracher de filles qui risquent de les détruire et les mener au suicide. Et là, vous voyez, il y a un pierrot, il a un pistolet à la main. Là. Cela étant dit, vous avez également un trompe-l'œil dans celui-là. Je ne sais plus où il est parce qu'il est en pierre. Une tête de cheval, c'est assez amusante. Elle doit être au niveau de...
Ah oui, c'est là. Il y a un cheval blanc là-bas, au milieu.
Voilà, il y a ça, mais il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième qui est en biais, elle est en trois quarts. Je vais la retrouver parce que je l'ai en bouquin là. Il faut que je me déplace parce que des fois c'est pas évident. Hein.
Tu cherches quoi?
Je cherche. Non, c'est dans le bas. C'est dans le bas.
Mais tu cherches quoi?
Je cherche une tête de cheval. Très très bizarre d'ailleurs, coiffé d'une espèce de fêchia. Et il est de trois quarts. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
Tout le monde cherche.
Voilà, il est là. Il est là, regardez.
Oui, il y a des chevaux partout.
Là, ici. Vous l'avez trop. Il est de trois quarts. Il n'est pas vraiment de trois quarts, il est presque en profil, sans être de profil, coiffé d'une espèce de chéchia.
Alors c'est de cheval là.
Oui, mais de toute façon, c'en est truffé.
Il y en a partout.
Et alors, de l'autre côté, vous ne l'avez pas aujourd'hui parce que ça a dû être rendu au petit palais de Genève qui l'avait prêté, ils l'ont prêté pendant des années. Vous aviez une toile qui faisait toute la surface du mur et qui était une toile de Stenlen, peinte aux alentours de 1890 et qui s'intitulait l'apothéose des chats. Alors c'était très bizarre comme toile parce que vous aviez en fond de décor, vous aviez les moulins de Montmartre avec une tête barbue dans un moulin en trompe-l'œil, et vous aviez une structure de chat en pyramide sur les toits de Paris, avec un chat noir en majesté, auréolé de la lune pleine. Et donc, ce tableau pouvait s'intituler, en fait, et se décliner comme étant le mystère des chats. Il faut savoir que quand Stenlen habitait à Montmartre, l'endroit qu'il habitait, il l'avait baptisé Kate's Cottage, le cottage des chats. Et le mystère des chats, phonétiquement, c'est proche quand même du mystère des cats, la fameuse déesse, qui était la déesse lune, justement. D'où cette chatte noire qui est décorée du disque lunaire. Et le mystère des chats, c'est pratiquement l'anagramme de mystère des cathédrales. Donc, comme par hasard, on retombe sur l'œuvre fulcanélienne, et c'est le moment peut-être que je vous lise ce qu'il en disait à propos du chat noir dans son livre. Il disait,
il y a un blanc radio là.
Il précisait, ce sont les moustaches du chat qui lui ont fait donner son nom. On ne se doute guère qu'elle dissimule un haut point de science et que cette raison secrète valut au gracieux félin l'honneur d'être élevé au rang des divinités égyptiennes. Donc ça correspond à ce que je disais tout à l'heure dans la rue, en partie. À propos du chat, beaucoup d'entre nous se souviennent du fameux chat noir qui eut tant de vogue sous la tutelle de Rodolphe Salis. Arrêtons-nous. Et il ajoute un peu plus loin, mais combien savent quel centre ésotérique et politique s'y dissimulait, quelle maçonnerie internationale se cachait derrière l'enseigne du cabaret artistique. D'un côté, le talent d'une jeunesse fervente, idéaliste, faite d'esthète en quête de gloire, insouciante, aveugle, incapable de suspicion. De l'autre, les confidences d'une science mystérieuse. Là, c'est mon commentaire, c'est l'alchimie, la science mystérieuse, mêlée à l'obscure diplomatie, tableau à double face, exposé à dessein dans un cadre moyenâgeux. Effectivement, toute la décoration du chat noir était moyenâgeuse, voire Louis XIII. Et il ajoutait, l'énigmatique tournée des grands-ducs, signée du chat aux yeux scrutateurs sous sa livrée nocturne, aux moustaches en X, rigide et démesurée, et dont la pose héraldique donnait aux ailes du moulin Montmartre III une valeur symbolique égale à la sienne, n'était pas celle de prince en goguette. Alors, bon, je pourrais disserter là-dessus, parce qu'il y a plein de choses dans ce petit paragraphe tiré de son œuvre qui fait pratiquement 700 pages. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le chat noir, le cabaret, est organisé en tournée. Il parcourait la France, voire même l'Europe. D'où cette fameuse tournée des grands-ducs. Hormis le fait que le soir, ça vivait beaucoup à Montmartre et qu'on faisait un peu tous les caboulots, tous les cabarets et tous les bistrots. Et c'est effectivement Stenlen qui a fait la première affiche du chat noir. Alors cette affiche, elle est reproduite là-bas. Je ne sais pas si elle est parfaitement nette au niveau des contrastes. Si elle l'est, vous verrez qu'il y a un trompe-l'œil.
Mais tu vois la queue ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pas très net parce que les contrastes ne sont pas très bons dans la toile avec le vert. Mais vous avez en fait la tête du cheval marin ici, avec la queue qui revient là.
Ah oui, c'est clair.
C'est plus net dans mon livre encore.
Donc l'hippocampe dont on parlait tout.
Le fameux hippocampe qui signe en fait. Alors,
on voit bien l'œil là.
Dans le tableau qui est reparti à Genève, dans le poil des chats, vous avez des hippocampes, mais en masse, en pagaille. Et à l'époque, je l'avais signalé au conservateur. Je lui avais signalé aussi le visage qui se trouvait dans les moulins. Mais il dit, vous croyez. Puis il avait haussé un peu les épaules, l'air de dire tout ça, c'est du délire d'écrivain. Et je suis revenu, je ne sais plus, 6 mois après. Ils m'ont reconnu, ils m'ont dit, mais c'est vous qui nous avez parlé de trompe-l'œil dans l'œuvre de Stenlen. Je dis, oui, tout à fait. Vous pouvez nous montrer, on les a cherchés, on les a retrouvés. Donc j'aurais montré le visu sur le tableau. Ils l'ont vu, ils ont reconnu que c'était vrai. Et même le visage, ils l'ont vu sans avoir besoin d'un appareil photo ou d'une loupe. Hein, on le voit très nettement parce que c'est un gigantesque tableau. Hein, donc, puisqu'on est là, profitons-en pour parler peut-être du lapin agile. Vous avez, alors, je ne sais pas ce qu'ils en disent exactement, mais a priori, selon certains auteurs, la toile d'origine a disparu. Au musée, je crois qu'on prétend que c'est l'original et que celle qu'on voit sur le restaurant, c'est une copie en réalité. Alors je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais c'est quand même une toile un peu curieuse. Vous avez un lapin avec une bouteille, une toque, une écharpe rouge qui lui en serre la taille. Et moi je n'ai jamais vu un lapin qui va finir à la casserole avoir l'air aussi joyeux.
Et aussi dodu.
Et aussi dodu. D'ailleurs pour un lapin, remarquez qu'il a de grandes oreilles hein, quand même. Il ressemble plus à un lièvre qu'à un lapin. Alors, pour comprendre ça, il faut connaître un petit peu la genèse de cette toile. Et il faut surtout connaître un petit peu le personnage qui était André Gilles. Alors André Gilles, ce n'était pas un personnage qui sortait du peuple, hein, véritablement. En fait, c'était l'enfant naturel d'un aristocrate. Et ce qui est intéressant quand on voit ce lapin, il faut savoir que l'expression lapin, à l'origine, dans un dictionnaire, ça désignait un voyageur ou un colis que le cocher n'avait pas déclaré. Donc quelque chose qui voyageait en contrebande. Voyager en lapin, c'était voyager en voyageur clandestin. C'est-à-dire le plus souvent assis à côté du cocher. Donc on payait pas sa place, on était sur le en haut. Ce tableau, il a été peint en 1875. Et il a été peint pour le cabaret qui se trouvait deux rues des Saules, qui à l'époque s'appelait le cabaret des assassins. Alors pourquoi le cabaret des assassins? Parce que vous aviez une peinture qui témoignait des crimes célèbres d'un tueur en série, un serial killer de l'époque, avant que le terme existe, qui s'appelait Trotman. Et ce cabaret des assassins, quand une certaine Adèle a repris le bail, elle a trouvé que le cabaret des assassins, ça faisait fuir la clientèle plutôt qu'autre chose, elle a changé le nom. Et c'est devenu, donc, au départ, c'est devenu ma campagne, en 1886. Et cette dame s'appelait Adèle de Cerf. Dite Adèle, tout court, c'était une ancienne danseuse, assez accorte. D'ailleurs, il y avait une chanson qui circulait à son sujet, en lui disant « Adèle, montre-moi tes gros nichons », etc. Enfin, vous voyez le genre.
C'est cochon.
Oui, c'était très, très olé olé. En 1903, ça a été vendu, et c'est devenu le Lapin Agile. Le lieu avait été racheté par Bruant, qui en a confié donc la gestion au père Frédé, qui occupait les lieux avec Berthe, sa femme, et sa fille Margot. Il y avait aussi des animaux dans ce restaurant. Il y avait l'âne Lolo, dont on reparlera tout à l'heure. Elisabeth, ça doit déjà lui dire quelque chose, non? Ça ne te rappelle rien, l'âne Lolo? C'est un grand moment de la peinture française.
Oui.
Le soleil se couchant sur l'Adriatique, ça te dit quelque chose?
Oui, ça
oui. Oui, bon, bah, c'est Lolo. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Il y avait la chèvre Blanchette, il y avait un chien, un corbeau et des souris blanches. Frédé, il avait été directeur d'un autre cabaret qui s'appelait Zut. Alors rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait un mouvement auquel avaient adhéré de nombreux artistes qui s'appelait le Zutisme. D'ailleurs, quand vous lisez Les aventures d'Arsène Lupin, à l'époque, on était plus correct que maintenant. Lupin, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne vous dit pas merde, il dit zut. C'est une référence au Zutisme. Notre peintre, donc Gilles, s'appelait en réalité Gosset de Guine, dit André Gilles. Et c'était Nadar qui l'avait introduit dans le milieu artistique en le faisant rentrer au journal Amusant. Et alors cette toile, son nom de Lapin Agile, ça lui vient de quoi? Ça lui vient de plusieurs dénominations. À l'époque, on disait la, L-A, accent grave, pain, A, Gilles. Donc André Gilles. C'est devenu ensuite le Lapin Agile, du peintre Gilles, et ça a fini par être le Lapin Agile, donc doué d'agilité. Alors pourquoi cette toile? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une expression latine qui vous dit « Hic jacet lupus ». C'est là que gît le lièvre. Je vous l'ai bien dit, hein, c'est un lièvre, c'est pas un lapin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lièvre est toujours un symbole lunaire. Il est toujours associé à l'astre des nuits. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a une comptine, dont je vous donne les premiers vers. J'ai vu dans la lune trois petits lapins qui mangeaient des prunes en buvant du vin tout plein. C'est mignon comme tout, mais vous voyez que ce soit les lapins ou les lièvres, ils sont toujours associés à l'astre lunaire. Au même titre d'ailleurs que les personnages d'étoiles de Villette, puisque les Pierrot et Colombine, c'est toujours associé à la lune aussi. La comptine elle-même d'ailleurs, c'est une comptine à double sens. C'est une comptine à la fois charmante pour les enfants. Vous avez le Pierrot qui en général est blanc, il n'est pas noir comme ceux de Villette, mais c'est un jeu de mots sur la pierre au blanc. Hein, c'est l'œuvre au blanc en alchimie en réalité. Colombine, ben, c'est transparent, c'est la colombe, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et puis derrière tout ça, vous avez un sens beaucoup plus grivois. Notamment quand il est question de la plume, c'est totalement grivois. Hein, c'est... Donc voilà. Puis alors vous avez ce lapin qui est dans une casserole en cuivre.
Sais-tu comment on s'appelle en cuisine, dans une brigade, comment on appelle cet ustensile?
Cette casserole,
une russe.
Oui, alors, une russe. On appelle ça une sauteuse aussi.
Aussi
oui, oui.
Pourquoi tu me regardes?
Non,
on l'appelle une russe. Or, Montmartre a été envahi par les Russes.
Oui, tout à fait.
Et c'est de là qu'il criait bistrot,
vite. Oui, tout à fait. C'est de là que vient le mot bistrot, effectivement.
Mais attends, ça rappelle aussi au clair de la lune.
Oui, oui, tout à fait.
Et la souris verte qui courait dans l'herbe.
Exactement. Toutes les comptines, hein, de toute façon. Au même titre que la simple comptine « il court le furet », c'est une contrepétrie dans le genre de celle qu'affectionne l'album de la comtesse dans Le Canard enchaîné. C'est une contrepétrie grotesque, hein, enfin, même érotique, puisque « il court le furet », c'est « il fourre le curé hein. ». Oui, mais quand les enfants chantent ça, personne ne s'en rend compte. Hein. Et vous savez comment on a découvert tout ça? De façon moderne, plutôt. Parce que dernièrement, il y a Britney Spears qui chantait une chanson, que tous les gamins de 8-9 ans chantaient en chœur aux États-Unis. Puis il y a un père avec l'oreille un peu plus fine que les autres, qui s'est aperçu que cette chanson, en fait, comme ça arrive souvent en anglais, les sons vous donnent des à peu près phonétiques. Et en fait, les paroles de la chanson, le début de la chanson, quand on entendait bien, c'était pas du tout anodin, ça disait textuellement « fuck me ». Et tous les mots, ils chantaient ça à tue-tête. Et le père, il a gueulé, il a dit « bon ben, qu'est-ce que c'est que cette chanson ?» En fait, elle n'avait rien inventé, elle avait repris ça de la plume de James Joyce, qui utilisait le même genre d'à peu près phonétique dans Ulysse. Alors, ce lapin, évidemment, pour la plupart des gens, ça ne va pas leur exprimer autre chose que ce que j'ai pu exprimer là. Mais il faut savoir que le lexicographe qui s'appelait Grasset d'Orsay, qui avait écrit plus de 200 articles durant le 19e siècle jusqu'en 1900, date de sa mort, cité par Fulcanelli, l'auteur des deux ouvrages alchimiques dont je parlais en début de conférence, et dont on va reparler, donc Fulcanelli parlait beaucoup de Grasset d'Orsay, de la façon qu'il avait de mentionner les écrits qu'on appelait les écrits diplomatiques, l'art de la bordure, du grimoire. Alors le grimoire, ce ne sont pas les ouvrages du Moyen-Âge. Par grimoire, on entendait l'art de grimer sa pensée, donc de la voiler. C'est une écriture secrète, une cryptographie, si vous préférez, un code. Et donc, il expliquait, Grasset d'Orsay, que les corporations de peintres se regroupaient sous le patronage de Saint Gilpin. D'ailleurs, on trouve en littérature anglaise un personnage qui s'appelle John Gilpin. C'est la même référence. Grasset d'Orsay a beaucoup écrit sur John Gilpin et sur le folklore anglais de l'époque. Et il expliquait d'ailleurs que les peintres de ces corporations avaient reçu l'autorisation d'ajouter à leur nom, quand ils signaient leur toile, la formule latine pixit. Pincit. Et pincit, ça veut dire je l'ai peint. Ce qui est un à peu près phonétique de Gilpin.
Ah ouais.
Alors, on pourrait me dire, bon bah tout ça, ce sont peut-être des vues un petit peu de l'esprit. Pas du tout, puisque on trouve la même chose pratiquement sous la plume d'André Alcia, qui avait été nommé professeur de droit par François Ier, donc bien auparavant. Et dans son traité du grimoire ou de la bordure, qui s'appelle Emblème, il expliquait qu'on voyait des planches qui encadraient, donc des bordures, des singes et des lapins. Et singes et lapins, ça donne en rébus Saint-Gilpin. Autre preuve, c'est que ces fameux Gilpins se reconnaissaient grâce à leurs attributs à l'époque. En tant que confrérie, comme dans toutes les confréries, il y a des signes de reconnaissance. Ils avaient notamment un manteau rouge, là c'est remplacé par une écharpe, la fameuse bouteille, qui vous renvoie à celle de Rabelais, hein, la dive bouteille, tout simplement, avec le fameux mot « trinque ». Et puis vous avez la toque, qui est commune à votre lapin, ou à votre lièvre, et au gilpin également. Je vous ai dit qu'on pouvait s'étonner quand même qu'il ait l'air aussi joyeux alors qu'il va bientôt passer à la casserole. En fait, je dirais que de façon moins choisie, il va pas tarder à avoir le feu
au cul.
Exactement.
Et se faire sauter.
Et se faire sauter. Dans une sauteuse. Or, ça c'est un grand classique des jeux de mots en peinture ou en littérature chez les anciens. Ils avaient très vite remarqué que le mot cul c'était l'anagramme de Luc la lumière. Et que le peuple, poétiquement, appelait un postérieur comment ? La lune. Simplement parce que ce derrière, il a deux hémisphères, donc deux quartiers. Donc pour eux, c'était la Lune. Donc c'est une façon indirecte de vous renvoyer à la Lune, qui est le grand secret des alchimistes du Moyen-Âge, hein, d'ailleurs. C'est la source de toutes les mutations et les permutations. Il n'y a pas d'autre secret que ça. C'est la Lune, en fait, qui vous permet d'obtenir des variations de forme et de densité des matières. Les anciens le savaient bien. On plantait jamais n'importe quand. Quand on voulait que les choses lèvent, on plantait en lune croissante. Quand on voulait que ça s'enracine dans le sol, on plantait dans l'autre sens. Et cette lune, eh ben, elle va se trouver omniprésente au cabaret du chat noir. Vous la voyez partout, comme les chats d'ailleurs. D'ailleurs, on voyait les affiches, il y a le chat partout. Bon, là, il n'y a pas la lune associée. Et alors, chez Frédé, à l'époque, eh ben, il y avait une clientèle extrêmement connue. Hein. Il y avait Apollinaire, Max Jacob, qui est mort avant d'être déporté dans une gare de triage. Vous aviez Courteline, Utrio, le fils de Suzanne Valadon, dont je vous reparlerai tout à l'heure, parce qu'il y a une histoire bizarre qui a impliqué à la fois Maurice Utrio, Suzanne Valadon, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, et le fils des employeurs des deux frères Van Gogh à l'époque. Alors ça, je l'ai appris par un ami qui, à l'époque, était expert en peinture, autodidacte, qui exploitait dans le quartier le musée Toulouse-Lautrec, et il s'est fait casser les reins, évidemment, par la critique. Parce qu'il avait trouvé un moyen d'authentifier l'étoile sans passer par la signature. On sait très bien, tous les uns et les autres, que des faux tournesols, il y en a eu en pagaille, qu'une signature, il n'y a rien de plus facile à imiter qu'une signature. Par contre, les trompe-l'œil, c'est beaucoup plus délicat. Et lui, comme moi, de son côté, il avait trouvé des trompe-l'œil chez Lautrec. Et donc, il avait authentifié des tableaux qu'on n'attribuait pas à Lautrec. Et ça ne faisait pas l'affaire des marchands, qui voulaient récupérer l'étoile, mais pour les vendre au prix fort, et qui n'admettaient pas qu'elle soit sur le marché, comme étant des Lautrec, tant qu'ils ne les avaient pas sous la main. Donc, ils l'ont descendu, ils l'ont cassé les reins. Il s'est retiré maintenant chez Bruant, et donc il continue à exploiter son activité de critique d'art là-bas, en province. On trouvait également Paul Fort, Jean-Henri de Cusse, Francis Carcot, Dorgelès, c'est lui l'auteur de la plaisanterie avec l'âne Lolo, on en reparlera tout à l'heure quand on verra la petite toile, Stenlen, Villette, donc l'auteur de Parche Domine, Picasso également, Léandre qui peignait aussi des Pierrot, Francisque Poulbeau, l'homme qui donc s'est occupé de et a donné son nom aux gosses des rues de Montmartre, Macorlan, et Macorlan avait épousé Margot, la fille de Frédé. Voilà ce qu'on peut à peu près dire sur cette salle. Alors là, c'est un. Je ne sais pas si c'est pas un Léandre, ça.
C'est un Pierrot.
Oui, c'est un Pierrot.
Oui,
c'est une toile de Léandre, ça.
En effet.
C'est la même école. Hein, c'est... Là, vous avez une toile représentant Bruant. Léandre, voilà, c'est ça. Alors vous avez Pierrot et Colombine.
Pierrot et Colombine.
Ouais,
aux
enfants du paradis avec, comment il s'appelait, avec Jean-Louis Barrault.
Oui, l'histoire du mime de Bureau, oui.
Bureau, oui, tout à fait.
Alors, je vous rappellerai que Bruant, c'était son vrai nom, mais un Bruant, c'est un oiseau. Hein. Donc, ça renvoie quand même à la langue des oiseaux, à ces à peu près phonétiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et il y a une bizarrerie, quand même, dans la façon de s'habiller de Bruant. J'en avais parlé à Jean-Marc Tarit, qui à l'époque était, il doit toujours l'être d'ailleurs, je crois, président de la Société du Vieux Montmartre. Et quand j'avais évoqué ce que j'en disais, il m'avait dit « c'est curieux parce qu'il y a un phénomène, effectivement, sur le Sacré-Cœur, mais il n'a pas pu me préciser quel jour, où il y a une ombre chinoise qui se dessine, on ne sait pas d'où elle vient, qui montre Bruant en tenue telle qu'il était à l'époque. » Et donc, Bruant, traditionnellement, vous savez que quand vous le regardez comme ça, sur une photo, n'importe laquelle, il est habillé quand même de façon un peu composite. Il a des bottes d'égouttier et il a une blouse de terrassier, en réalité. Et j'ai toujours soupçonné, parce que quand il est arrivé à Paris, il ne voulait pas du tout avoir ce look-là. Il avait décidé à l'époque de devenir chanteur de Cafconce. Donc il arrivait avec les cheveux plaqués, l'arrêt au milieu, et on lui a dit « Non, non, ça ne marchera jamais. Tu ne vas jamais percer avec cette ère-là, parce qu'il y a des chanteurs de Cafcons, il y en a déjà des tonnes. Crée-toi plutôt un look. Et on lui a imposé vraisemblablement les bottes de des Gouttiers et la blouse de Terrassier. Pourquoi ? Parce que ça permettait un rébus qui renvoie toujours à cette histoire de littérature hermétique. C'est une invitation à visiter à la fois le royaume de Vulcain, donc celui des égoutiers, l'intérieur de la terre, et également le royaume d'Élie, les cieux. Vous savez qu'Élie, c'est le personnage qui, sans passer par la mort, est emporté. Et donc, Vulcain et Élie, ça donne phonétiquement Vulcain-Élie, Fulcan-Élie, tout simplement. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, Fulcan-Élie, c'est un à peu près phonétique de Vulcain. Elle, c'est la déesse lune chez les Grecs pélagiens. Ça donne en extension de rébus le Vulcain de la lune ou le Vulcain lunatique. Et ce qu'on appelle le Vulcain lunatique dans les livres d'alchimie, c'est ce qu'ils appellent aussi le dissolvant. Et c'est ce que tu fais figurer, ma chère Elisabeth, dans ta toile, avec le nom vitriol. Qu'on retrouve aussi dans les cabinets de réflexion, etc. Alors, je ne sais pas si... Tout le monde le sait, mais cette histoire de vitriol, ce n'est pas une invitation à visiter l'intérieur de la terre et à prendre une pelle. C'est à visiter l'intérieur du mot terre. Si vous laissez le T et vous prenez l'intérieur du mot, il vous reste E2RE, ce qui se retrouve d'ailleurs à Bourges avec la fameuse crédence là-bas, RERE. Mais c'est également une invitation à entendre à la fois la lettre R et le mot R, A-I-R. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant phonétiquement, donc l'air, non plus E2RE mais le mot air, tu trouveras la pierre. Parce que, comme nous le rappelle la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement, le soleil en est son père, la lune en est sa mère, et le vent l'a porté dans son ventre, donc l'air. C'est le sens exact du mot vitriol, et pas du tout l'orivie ou visite simplement l'intérieur de la terre, etc. Donc c'était des gens qui s'amusaient. C'était l'époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de cinéma, il y avait... Bah oui, désolé.
Pas de radio.
Il n'y avait pas de radio non plus. Il y avait le café-concert, il y avait le fait que les gens, quand ils s'ennuyaient, ils jouaient en société, y compris dans les chaumières, comme dans les salons littéraires, et on adorait les jeux d'esprit, les rébus, les charades, etc. Donc, même les milieux initiatiques s'en sont servis pour voiler leurs pensées et développer ce genre de science. En promouvoir, en transmettre les connaissances. On va passer peut-être par...
Attends, Richard, je vois ici Marie-Laurence. C'était bien la copine d'Apollinaire.
Tout à fait, oui.
Oui. C'est pour elle, il se retrouvait sur le pont Mirabeau-Régulier.
Voilà, c'est ça, c'est l'amour malheureux d'Apollinaire.
Et c'est à cette époque-là qu'il a écrit Alcool.
Exactement.
D'accord, c'est ça. Il y avait du beau monde, hein.
Ah, il y avait du très beau monde.
Oui, il habitait là aussi.
Ouais. On va passer à côté. Oui, je sais. Allons-y. Bon, là vous avez un exemple de vieux zinc.
Attends, pas m'oublier, hein.
Vous avez un exemple de vieux zinc. Ça fait très
reconstitution
d'époque. C'est ce qu'on pouvait voir à l'époque, génial, dans les cabarets.
Ouais. Et il y avait déjà des c'est pour servir l'eau, c'est pas la bière encore. Il n'y avait pas la bière sous pression.
À l'époque, je sais pas si Salis n'avait pas utilisait pas la pression, hein. Parce que c'était surtout avant tout un distributeur de bière brassée par son père. Hein. Parce que la pression, je ne sais plus à quelle époque ça a été inventé, mais je crois que ça existait déjà. Mais...
électrique pour l'eau de sel, c'est...
Oui, pour l'eau de sel. Oui. Et ben ça, c'était formidable parce que tu faisais des ice cream soda, tu pouvais rester 2 heures avec ton eau de sel.
Ah ouais.
Le problème, c'est que maintenant, ils ne te donnent plus l'eau de sel avec les ice cream. Donc, Bon, la toile est totalement symbolique, il faudrait en parler longuement, mais on manque un petit peu de temps. Donc... Je vous laisserai découvrir ça tout seul. Et on continue. Thermomètre du pochard. Thermomètre du pochard. Non, je sais pas, on va peut-être continuer, on va monter quand même, non? Toi, tu veux pas monter?
Je vous laisse monter.
On peut?
Ah, vous en prie.
Merci.
Vous montez et après vous sortez
ou pas? Oui, on sortira après, oui. Alors, ben je vous laisse circuler un peu. Je vous parlerai de Suzanne Valadon rapidement après. Oui. Je vous parle de ça, elle est se couchant sur l'Adriatique, mais elle n'est pas là, je crois qu'elle est au-dessus. Voilà, tout le monde est là?
Oui.
C'est bon?
Oui.
Bien. Alors, je vous avais promis de vous parler de Suzanne Valadon et de ses relations avec le milieu de la peinture de l'époque. Mon ami, donc, qui est critique d'art, m'avait signalé à l'époque que ce qui s'était passé, c'est que Vincent Van Gogh et Théo Van Gogh, son frère, travaillaient tous les deux pour la maison Goupil. Alors Goupil, c'était les gens qui avaient la mainmise pratiquement sur tout ce qui était illustration, au niveau de la presse, etc. Et ils avaient trouvé un procédé qui a provoqué la faillite pratiquement de tous leurs concurrents, qui était l'ancêtre de la typographie telle qu'on la connaît. Et à l'époque, le fils de Goupil a été mêlé à une histoire d'amour qui incluait Suzanne Valadon, Lautrec et Van Gogh. Il se trouve que Lautrec était tombé amoureux de Suzanne Valadon, et lui qui était un avorton chétif atteint de la maladie des os de verre, il s'est dit après tout, ça serait quand même qu'une femme s'occupe de moi et que je puisse avoir un enfant. Et apparemment, d'après ce que m'avait raconté mon ami Louis Barbier, il semblerait qu'elle était enceinte des œuvres de Lautrec. À tel point que la mère de Lautrec, qui voyait cette liaison d'un très mauvais œil, hein, on est quand même dans la famille des descendants des comtes de Toulouse, là-bas, elle commençait à préparer quand même le berceau en se disant, après tout, peut-être que je vais avoir un petit-fils ou une petite-fille, pourquoi pas, après tout, faisons contre mauvaise fortune bon cœur.
C'est Lautrec qui est en train de te
faire. Lautrec. Donc, d'ailleurs, quand je vous parle de ça, ça me rappelle que quand j'ai publié mon bouquin sur le chat noir, il y avait le descendant de Lautrec, descendant direct, qui était monsieur de Tristan Tapier de Céléran, qui m'avait appelé en disant, c'est curieux tout ce que j'ai appris sur mon aïeul, je ne savais pas tout ça. Et bizarrement, ça m'a renvoyé un peu à Fulcanelli, parce qu'il était marié avec une dame Jobert à l'époque, et que Jobert, c'est sans doute, à mon avis, le personnage qui a signé les deux Fulcanelli, les deux bouquins dont je parlais tout à l'heure. Donc, toujours est-il que pour en revenir à cette histoire de peintre, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, Van Gogh, Vincent et Lautrec étaient très amis. Ils avaient fait leurs études tous les deux aux Beaux-Arts de Paris. Et ils étaient dans la classe de Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme qui était devenu le gendre des Goupil. Et le drame de Vincent, c'est qu'il vivait au crochet de son frère à Paris. parce que lui, il avait travaillé pour Goupil, mais il était parti ou il s'était fait virer, on ne sait pas exactement. C'est Théo qui lui assurait sa subsistance. Et le jour où Théo a été viré par les Goupil, ils se sont retrouvés sans un sou tous les deux. Alors on prétend que c'est une vengeance, une basse vengeance de la famille Goupil, parce que à l'époque, il y aurait eu une rivalité entre Lautrec et Van Gogh, parce que Suzanne Valadon aurait trompé Lautrec avec son meilleur ami, donc Van Gogh. Ce qui fait qu'on voit, et Louis Barbier m'avait montré deux œuvres, il y en a une, on voit un portrait d'amour de Suzanne Valadon, elle est de profil, un petit peu comme ça, avec un petit ventre bien rebondi, donc on voit qu'elle est enceinte, c'est vraiment un portrait d'amour de Lautrec. Et il y en a un deuxième qui remonte sans doute à l'époque où elle l'a coquifié. On la voit en Vénus impudique, les jambes écartées avec quelque chose au niveau du sexe, on ne sait pas trop ce que c'est. Et dans un coin, Satan, à qui Lautrec avait fait la tête de Van Gogh. Mmh. Il semblerait qu'il ne soit pas resté fâché très longtemps, parce que quand Van Gogh a été critiqué, c'est Lautrec, dans les milieux artistiques, c'est Lautrec qui a pris sa défense. Hein. Donc visiblement, c'était passé un petit peu à l'as sur querelle. Mais il y aurait eu un troisième larron. Il y aurait eu le fils Jérôme, qui serait devenu l'amant de Suzanne Valadon, dame dont on dit qu'elle avait la cuisse plutôt légère et hospitalière. Et donc, le suicide de Vincent Van Gogh n'aurait pas eu lieu tel qu'on l'écrit dans un excès de folie, il serait agi d'un duel. Alors Louis Barbier prétend, sur le coup je dois dire j'étais un petit peu dubitatif, mais j'ai repris les écrits. Et je me suis aperçu que, selon les auteurs, on vous dit que Van Gogh s'est tiré une balle de pistolet dans le cœur, d'autres vous disent qu'il s'est tiré au niveau de l'aine. Les avis varient. Alors, toujours est-il qu'il a mis plusieurs jours à mourir, ce qui a donné à Gachet d'ailleurs le temps de signer la production, d'où l'histoire des tournesols qui ont inondé le marché.
Et que dit l'acte de décès ?
Alors l'acte de décès, on parle de purement et simplement de suicide, hein. Il n'y a même pas eu d'enquête. Vraiment. Mais là, ça tient par la route. Parce que quand on se suicide, on ne se tire pas une balle dans l'aine, si vraiment c'est une balle dans l'aine. On se la tire dans la tête ou dans le cœur éventuellement, ou dans la bouche. Mais par contre, dans un duel au pistolet avec les pétoirs de l'époque, même à 20 pas, les coups n'étaient pas tellement assurés. Quand on tirait au cœur ou au ventre, la balle pouvait très bien se loger dans l'aine. Et il semblerait que le fils Jérôme, d'après ce qu'avait appris Barbier, ait été tué au cours de ce duel. Les obsèques se sont faites discrètement pour étouffer le scandale, et on a maquillé ça en suicide. Alors il y a tout un aspect de l'œuvre de Lautrec que personne ne reconnaît, et je vous ai apporté des documents pour vous les montrer. C'est l'œuvre de mon ami Barbier d'ailleurs. Par exemple, quand vous voyez le personnage d'Offenbach tel qu'il est dessiné là, et au niveau de la tête notamment, et bien ça cache une fourmi, ça cache une cigale. Alors la cigale, pour la voir, il faut retourner le tableau, là. Elle est là, derrière les lunettes.
Ah oui.
Donc, c'est pas très très net. Oui, je peux vous le montrer par là. À l'envers. Il y a les yeux, là. Bon, il y a la cigale aussi. Dans le même ordre d'idée. Et il y a la fourmi, je veux dire. Bon, c'est pas très net non plus, on la voit là, ce qu'elle appelle une fourmi, je sais pas si... Par contre, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus troublantes. Par exemple, il avait dessiné Monsieur Le Perrier, et il lui avait fait une tête de bouc à l'envers. Regardez par là.
Ah oui.
Ah ouais. Bon, je suis désolé, c'est un peu petit, hein, mais c'est... L'affiche du Moulin Rouge que tout le monde connaît, eh bien, si vous regardez bien, vous avez aussi des trompe-l'œil, là. Jeanne Avril, c'est pareil. Dans le tableau de la Goulue, c'est pareil. Dans l'affiche du divan japonais, on va la voir en principe ici. C'est bourré de trompe-l'œil également. Il y en a d'autres qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu l'hippocampe qui se trouve dans le chapeau de Jeanne Avril, notamment.
Ce que tu appelles trompe-l'œil, c'est des dessins qui sont cachés à l'intérieur.
Voilà.
D'accord. Ça s'appelle ça trompe-l'œil.
Oui. Oui, ça peut être des trompe-l'œil, si tu veux, qui sont dissimulés.
Ouais.
Soit des affaires de perspective.
Ah, d'accord.
Il est là, dans le chapeau, la dame en noir. C'est Jeanne Avril. Hein.
D'accord.
Et alors, la bonne question qu'on m'avait posée, d'ailleurs, au niveau du musée, on m'avait dit, mais d'après vous, pourquoi est-ce que le personnage qu'on voit dans le fond, qui est la chanteuse Yvette Guilbert...
C'est le diable.
Non, c'est Yvette Guilbert. C'est la chanteuse Yvette Guilbert. Pourquoi il ne doit pas dessiner la tête? Alors, il l'a quand même mise en forme de Y. Hein. Il a signé donc le prénom Yvette. Mais pourquoi on ne voit pas cette tête? Alors j'ai réfléchi quelques instants, puis je leur ai donné une solution qui vaut ce qu'elle vaut. Quand en général, on coupe un détail dans une toile, c'est qu'on a l'intention d'attirer l'attention dessus. Oui. S'il lui coupe la tête, c'est qu'il renvoie à quelque chose. Il faut savoir à ce moment-là de quel côté de la scène elle est. En théâtre, on dit qu'elle est côté jardin. Côté du jardin. Comme par hasard, le personnage qui se trouve là, c'est censé être le critique d'art Édouard Dujardin. L'homme qui, en 1923, a dédicacé l'un de ses livres à Raymond Roussel, qui est un précurseur du surréalisme, tout au moins l'un des auteurs encensés par les surréalistes, et par Breton en particulier. D'ailleurs, je peux vous assurer que c'est pas Édouard Dujardin, hein, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas par hasard qu'il a mis Jeanne Avril, dont les initiales sont J.A., etc. C'est totalement crypté. Hein. C'est vraiment du rébus historique, littéraire, etc. Et ce qui est très bizarre, c'est que ça renvoie à l'œuvre d'un ami, de notre ami Malika, c'est-à-dire le descendant, tout au moins, de Gaston Leroux. Dans Le Roi Mystère, il y a tout un chapitre où il met en scène cette toile. Enfin, cette affiche, tout au moins. Et l'affiche s'appelle, le chapitre s'appelle la poire William. Non, le William Bar. Pourquoi? Parce qu'il y a une variété de poire William, et que dans le jabot du personnage, en perspective, vous avez une poire. Dans le jabot. Au même titre que vous avez une tête d'oie. Non, qui remplace la main du chef d'orchestre. Vous avez une espèce de tête de grenouille là. Dans le chapitre qui s'appelle le William Barr, vous avez des jeunes gens qui jouent à la grenouille, c'est-à-dire qui s'accroupissent et ils sautent comme les grenouilles. Hein. Vous avez une dame blonde en noir. Vous avez un jeune homme, soi-disant journaliste, à l'écho du Monde, je ne sais plus trop quoi, un journal quelconque. Blond également, avec une petite barbichette. C'est exactement la description du personnage. Dans le roman, il est question de deux personnages, dont un qui s'appelle le vautour. Dans les trompe-l'œil de Lautrec, dans d'autres toiles, vous avez le vautour. Il est question du petit chaperon rouge, vous avez le petit chaperon rouge, la mère grand, le loup, etc. Il a décliné, en fait, toute la culture populaire dans ses affiches. Et Gaston Leroux s'en est resservi dans ses romans. C'est assez étonnant. Alors, il y en a une qui est assez assez grivoise aussi. Oui, ça, celle-là aussi, là, il y a un trompe-l'œil qui est intéressant. Quand on regarde en perspective un petit peu, c'est une scène anodine. Bon, il y a ce rentier qui est en train de se faire bécoter par une horizontale, comme on disait à l'époque. Par contre, si on regarde bien en trompe-l'œil, là, il y a un autre corps féminin avec une paire de fesses.
Ouais.
Donc, on peut supposer qu'elle est en train de lui faire une gâterie. Ça, Barbier l'avait bien vu. Là aussi, vous avez autre chose qui est très très connue. Je ne sais plus qu'il sait. Plus loin ou moins loin. Ah, c'est confetti. Celle-là, elle paraît totalement anodine quand on la voit comme ça. Sauf que, à côté de la signature, dans ce sens-là, on a un beau phallus bien dressé.
Oui.
Alors ça, c'était le genre d'amusement auquel se livrait régulièrement Lautrec qui lui de toute façon était très faut dire qu'il était un peu privé hein. Ses aventures galantes se limitaient à ces demoiselles du French Cancan hein, qui d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie lui rendait visite, venait atténuer ses souffrances, etc. Donc voilà l'univers. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fameux Jean-Léon Gérôme, dont le fils aurait été le rival de Lautrec et de Van Gogh, était l'illustrateur des deux ouvrages signés par l'alchimiste qui se faisait appeler Fulcanelli. Champagne avait été l'élève de Jean-Léon Gérôme. Donc il avait été condisciple aussi de Lautrec et de Van Gogh. Alors pour la petite histoire, quand Van Gogh est arrivé à Paris, parce que là on ne regardait pas comme un monstre à Paris, hein, il était normal, il avait même des boxeurs qui l'encadraient, qui lui servaient de nounou, etc. Je crois qu'il n'était pas le dernier à faire à se castagner avec sa canon long, hein, il y avait fort. Mais c'est un personnage qui avait, en fait, Lautrec avait été introduit dans le milieu à la fois médical et le Paris artistique, par son meilleur ami et cousin, qui était le docteur Tapier de Céléran, donc l'ancêtre de celui qui m'a téléphoné. On passe. Je ne sais pas si l'âne. Qui ça? Non, elle est en bas. Oui, elle ne voulait pas monter.
Quel ouvrage auquel tu fais référence?
C'est le bouquin qu'a écrit mon copain Barbier. Donc vous avez des lettres autographes aussi, hein, du trio. Alors je ne suis pas sûr que Barbier ait raison sur tous les plans, mais il y a quand même des...
Il ferme dans 10 minutes.
Ah bon, ben... Donc on va descendre alors carrément. Je parlerai du reste dehors. Ça risque de fermer, oui, c'est pour ça que je vous ai emmené surtout là, pour que vous rejoigniez le comité de soutien éventuellement sur le net aussi. Hein. Bah, il suffit de taper musée de Montmartre, comité de soutien.
Pourquoi c'est trop cher?
Non, c'est parce que M. Delannoy avait décidé que le terrain étant les Champs-Élysées de Montmartre, ce musée n'était pas rentable. Il faut dire qu'il ne peut pas être rentable, parce qu'avec la dotation de la ville de Paris, tu vois, ça permet juste de couvrir les salaires et les frais, et payer le loyer, surtout de la ville de Paris. Et donc, il voulait faire un projet immobilier, ouais.
Projet
immobilier. Ouais, ce qu'il laissait au bureau du pire. Ok. Eh bien, bonne soirée.
Je vous en prie, bonne soirée.
Alors en bas, en principe, vous avez aussi vous devez avoir encore les anciennes silhouettes en zinc de Lautrec.
Des théâtres.
Merci.
Par contre, il est trop mignon, ce jardin.
Et j'habite la rue Maurice-Trudeau, mais c'est surtout que Sannois aussi a été le siège de la présence de Maurice Priot et Suzanne Valandon. Et on a un moulin de la galette aussi. Donc du coup, je suis en train de faire plein de parallèles. Et je pense que je vais me pencher sur ma ville jusqu'à maintenant.
Penchez-vous sur la ville, parce qu'à mon avis, il y a des choses qui vont ressortir. Et éventuellement, il faut les fouiller un peu dans les archives. Alors là, ils ont la chance d'avoir une très bonne archiviste et ils ont une documentation énorme. Mais alors, moi quand j'y étais allé, c'était un écarton. Alors il fallait vraiment se les taper. Ouais. Mais j'avais trouvé pour illustrer mon bouquin des tas de trucs que je ne trouvais pas ailleurs.
Ça
là, ici.
Ah ouais, là, ouais.
C'est Blandine, je me souviens plus de son nom, qui s'occupe de ça, je la connais bien d'ailleurs.
Attends, il y a pas grand chose, on va passer par place du fer.
Oui, puis...
Il y a pas plus qu'il reste dans la cuisine.
Il faut encore un panier.
Je vais te montrer deux très beaux vitraux.
Et avant, il y a le lapin Gilles, là, juste en bas.
Oui, ben je leur en ai déjà parlé là, donc c'est pas la peine.
Ils vont pas le voir?
Si, ils vont le voir, on va passer devant.
Oui, ils vont passer devant.
Oui, on va prendre un métro maintenant, on va aller prendre un métro, mais pas... Moi, j'ai une femme maintenant, on va passer dans le train.
Là, je
j'avais chez moi l'affiche du de l'autre que j'aime bien.
C'est chouette l'autre.
Ouais, mais j'avais jamais capté.
Merci. Tu vas bien. J'ai emmené un petit groupe qui a découvert comme ça très rapidement le musée. Je vais reprendre rendez-vous avec le président et on va essayer d'organiser des choses pour vous aider. Et ils vont soutenir aussi. Ben voilà, j'ai eu votre message sur mail, mais j'ai pas pu venir avant parce que je suis parti au Portugal pour un colloque international traitant de l'alchimie. J'étais invité là-bas. Ensuite, j'avais des déplacements en France pour d'autres conférences. Là, j'ai profité de cette possibilité avec ce petit groupe pour faire visiter le musée, attirer leur attention sur le fait qu'il était en péril quand même encore. Et bon, maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on le fasse vivre un petit peu, ce musée. Donc, je rentre en contact avec vous dès qu'on peut. Là, je pars en vacances à la fin du mois, pendant 8 jours.
C'est septembre, je pense, parce que là, moi, je pars globalement de moi, mais je vais revenir 4 ou 5 fois.
D'accord.
Alors, mais si vous voulez,
ça ne sera pas facile pour vous. Donc, on attend la rentrée de septembre. Je reprends contact avec vous, comme ça sera plus facile. Et puis, on définira ce qu'il faut faire. Mais bon, moi, je peux vous amener du monde, parce que je suis dans un milieu à la fois artistique d'anciens artistes et leurs élèves de Marcel Duchamp. Donc ils sont tout à fait dans ce milieu ésotérique dont on a souvent discuté tous les deux. Il y a également certaines obédiences maçonniques, là il y a une partie des représentants d'une petite loge, mais ils sont dans des obédiences plus importantes aussi. Et ils sont tous engagés dans l'analyse, surtout du symbolisme à tous les niveaux, donc, et en particulier du symbolisme hermétique.
Donc en septembre.
Et si on arrive à. J'ai bien envie, d'ailleurs, il faut que j'aie le temps, mais je n'ai pas tellement de temps. Je voudrais rééditer mon bouquin sur le cabaret du chat noir, parce que j'avais retiré que 500. C'est là qu'il y avait tous les trompe-l'œil dedans. Hein, c'était... Donc, mais j'ai des éditeurs pour le faire, mais le problème, c'est qu'il faut que je le réécrive, que je refasse les photos, etc. Ça bouffe du temps. Et là, j'ai trois bouquins en sortie, plus un quatrième en écriture. Donc, bah oui, je me suis retrouvé au chômage à 40 ans et j'ai publié près de 30 bouquins depuis que je suis au chômage.
Tu peux les remercier d'avoir publié au chômage.
Tout à fait, ils m'ont dit à l'époque, j'avais tombé sur un chasseur de tête qui m'a dit, monsieur, à 40 ans, vous êtes foutu.
À l'époque, à 40 ans, on était foutu.
Alors, je lui ai répondu, oui, monsieur, très bien. Je suis parti, 6 mois après, je sortais mon premier livre et ça s'est su dans le milieu. Il m'a dit, regarde, t'as sorti un livre. J'ai dit, je connais ces personnes, mais je sortais un livre. Un an après, j'en sortais un autre chez Presse Pocket. Ça fait du bruit. Ils ont regretté de m'avoir viré. C'est tard. Mais effectivement, comme tu dis, je les remercie.
Eh oui.
Donc, on se revoit la rentrée. Hein, d'accord. Oui. Ça tombe bien, tu vois, c'est le nouveau président du musée, et le grand, c'est Jean-Marc Tarry, qui s'occupait de la société du Montmartre. Donc, on va pouvoir revenir. On va organiser des choses.
Si on doit revenir, je vais demander à mon copain, là, si vous organisez quelque chose.
Hein. Et puis moi, je vais revoir de toute façon et Jean-Marc Tarry qui est là, et le président que je viens de rencontrer.
Ah, tu les connais bien.
Jean-Marc, je le connais bien. Le président, je ne le connaissais pas, on avait juste échangé. Mais on laisse passer les vacances, et en septembre, je reprends contact et on se voit.
D'accord. Et puis moi, j'en parlerai à mon copain.
Et tu en parles à ton copain, ce moment-là, on va... Parce qu'autant organiser, si tu veux, des actions concertées, c'est...
Oui, bien sûr.
On a déjà fait dans la liste.
Mais pourquoi pas. Pardon. Merci, Elisabeth.
Donc on passe devant le
lapin-gile,
et après le lapin-gile. Le lapin-gile.
Vous allez le rééditer, votre...
Faut que je le réécrive avant.
Non, c'est pas... Mais ça va vous demander encore un petit peu de temps. Pour le temps de votre secret.
C'est...
Peut-être que je peux le trouver encore.
Non, ou... non, parce que...
Même peut-être sur eBay, je vais quand même essayer.
Essayer, mais il est indisponible. On en avait publié 500, ils sont tous partis. Et il y a quelques années, j'avais un ami qui m'avait signalé qu'il en avait trouvé un exemplaire aux puces. Ça remonte à 15 ans, hein, déjà. 10-15 ans. Il m'avait dit, tu ne viseras jamais à combien vendre ton bouquin. Non, c'est pas vrai. Il le vend 1500 francs. Et il y avait même un libraire, un bibliophile, qui vendait les deux ouvrages de Bruant. Alors c'est très marrant les contes de Bruant, parce que c'est du conte moyenâgeux, mais un peu érotique. Et il y a des dessins en couleur, avec des filles très dénudées. Et donc le libraire érudit vendait des contes de Bruant, les deux volumes, et il le vendait en lot avec le bouquin de Richard Kézine, considéré comme une curiosité, sur le chat noir et les milieux de l'hermétisme. Comme j'ai toujours, je ne suis pas l'auteur le plus lu, mais je suis sans doute celui qui publie le plus, qui est le plus souvent pillé également et cité. Ouais. Je m'en fiche à la limite qu'il me pille. C'est pas pour les droits d'auteur que je touche, mais on fout éperdument. Tu sais, maintenant avec le net, les copyrights...
Ouais, mais la richesse, c'est vous qui l'avez, la richesse. C'est la richesse de l'esprit.
Ah oui, parce que
la richesse voilà, marchande.
Je pense que ce et soit dans le domaine de la peinture ou de la littérature ou n'importe quoi. On a quand même le sentiment agréable de participer à l'évolution et à l'enrichissement du patrimoine mondial et national. Et ça, je crois que c'est plus important.
Ah oui.
Ah oui, je sais bien que si tu veux si on peut en toucher un peu plus, ça serait pas plus mal.
Mais bon. Oui,
bien. D'accord, bien.
Et alors ton ami qui est expert, qu'est-ce qu'il permet de dire c'est un Van Gogh ou c'est un...
Les trompe-l'œil, la
question. Les symboles comme
les trompe-l'œil, oui. Les
petits symboles.
Trompe-l'œil. Donc là.
T'appelles ça les trompe-l'œil, parce que les trompe-l'œil, en principe, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Les trompe-l'œil, c'est plutôt ce qui est format 1-1, c'est plutôt des détails cachés.
Oui, j'appelle ça les trompe-l'œil si tu veux de façon générique.
Parce que ça trompe, parce que l'œil ne le voit pas tout de suite.
Voilà. Mais tu as aussi chez Grotrek de vrais trompe-l'œil.
Ah oui.
C'est-à-dire des anamorphoses.
Oui, oh, ça c'est impressionnant, ça c'est magnifique. Ça.
Là on est à la Maison Rose, c'est plus bas le.
On va où maintenant?
On descend là.
Il y en a même dans les tournesols, on peut voir comme ça des symboles cachés.
Alors, dans les premières toiles, j'arrive.
Ah non, mais on descendait pour et on pouvait.
Dans les toiles première façon de Van Gogh, plus après, mais dans les premières toiles, t'as plein de personnages, de têtes de personnages.
Ah ouais.
Ce sont les personnages de l'époque. Mais alors, si tu veux, il faudrait avoir les photos pour pouvoir les identifier.
Oui, bien sûr.
C'est là qu'on on manque un petit peu, si tu veux, de,
ah ouais, pour,
de repères. Alors, moi, quand je vois les œuvres de Stan Lane, si tu veux, avec le visage dans le moulin notamment,
ouais.
Ça a tilté tout de suite parce que je connaissais cette tête-là.
Ah oui.
Et j'ai relié ça à un article de journal que personne connaissait mais que tout le monde cherchait dans le milieu.
Mmh.
J'ai eu la chance de tomber dessus, de m'apercevoir que ce qu'on racontait sur le personnage, la date de naissance, etc., c'était faux.
Ah bon.
Et que tout le milieu Montmartre était derrière parce que le type qui l'interviewait, c'était André Ibels, le frère d'Henri Gabriel, qui m'a dit pour le savoir. Donc, si tu veux, ça c'est bien. J'ai eu un peu, je peux pas savoir. C'est vraiment l'intuition de l'artiste.
Quand on est guidé, on est.
Ah, tout à fait, oui. Donc, on va pas perdre beaucoup de temps parce qu'il est un peu frais.
Mais il est tout petit, le cabaret.
Voilà, il est là, le cabaret du lapin.
Alors, tu vois, je faisais.
Ils n'en finissent pas avec leur taxi.
Mmh.
En fait. C'est là qu'on devrait interdire finalement la voiture. Qui la mettent dans le contrebas pour que les gens puissent se garer, en fait, je comprends. Mais pas là-haut aussi.
Mmh.
Ou alors, tu te dépêches un peu. Ah ouais.
Allez, hop.
Pardon.
Merci,
je t'en prie. Ça a été un peu bousculé. J'aurais préféré que ça puisse.
C'était parfait, c'est très bien. Au contraire, moi je trouve au contraire que c'était un rythme très doux, très.
Parce que, faut dire qu'on est parti un petit peu tard, donc. Et puis bon, c'est pas facile de gérer un groupe comme ça.
Non, mais c'était très bien, très intéressant, puis ça ouvre plein de.
Non, mais tu sais, ce genre de balade, vu le programme qu'il y avait, il faudrait compter presque une heure de plus. Donc. Surtout que là, on a encore l'église, mais là, l'église, on va la faire vite parce que je vais pas commenter toute l'église. Aux abeilles, et on a surtout après la maison, l'escalopier, impasse Marie-Blanche. Parce que c'est une maison en fait qui a appartenu aux descendants de la famille des Lascala de Vérone. Donc on est encore dans un milieu hermétique. Mais bon, on se reverra un de ces jours. Puis dans mon bouquin sur les passages et galeries de Paris, j'en parle de la rue, je m'impasse Marie-Blanche.
Ça va sortir, en principe, je pense,
à la rentrée vers septembre. On avait pris du retard, ça devait sortir en février-mars. Puis finalement, elle a dit avant les vacances, ça sert à rien. On le sort en septembre à la rentrée.
Oui, c'est mieux septembre.
Donc, bah, au plaisir.
Patrick, à bientôt. On se voit le 7.
Merci beaucoup.
À bientôt, Patrick.
Voilà, là, t'es juste bien.
Je vous remercie également.
Au plaisir.
Et si, j'ai refait de reprendre les bouquins que vous voulez au moins.
Ce que je vais faire mieux que ça, je vais vous donner ma carte.
Ouais.
Comme ça, vous aurez mes coordonnées d'une part, et d'autre part, vous aurez la possibilité d'aller sur Wikipédia pour voir le site qu'ils m'ont consacré. Et avec le site, vous avez toute la liste des bouquins. Aussi.
On doit l'avoir.
Tu l'as.
Tu dois l'avoir, Olivier, là. C'est ton site.
Ce sont mes coordonnées avec l'email, etc.
Je vais t'en piquer un. Parce qu'il y en a. Moi, je t'en pique un aussi.
Merci en tout cas. Bonne
nuit.
Mais là, je sais pas, tu parles. Tu parles parce qu'on continue. Hein.
J'ai pris celui-là, j'ai pris le guitar de mon mari, il est gros, je ne sais pas si il est intéressant.
Là, il existe tout le monde.
Ouais. Tiens, je te laisse ma carte.
Ouais, elle est super belle.
Bah, tu sais, je l'ai fait faire sur Oprint, sur Internet.
Oui, oui,
hein.
Oui, oui.
Ils sont charmants en plus.
Ah oui.
Parce que je les ai félicités de leur travail quand ils m'ont fait ça la première fois,
en
signant Richard Kedlin, écrivain. Et là, du coup, ils m'ont renvoyé un mail en me disant « on est très honorés
».
C'est sympa, c'est très commercial. Quoi, c'est...
Et au lapin Gilles, il y avait les mêmes genres de choses un peu hermétiques pour
du temps d'Adèle et peut-être pas, mais du temps de Frédé, c'est sûr. Parce que la fameuse toile, on n'a pas eu le temps de la voir, mais c'est une toute petite toile comme ça, couchée de soleil sur l'Adriatique, qui a été exposée au salon des artistes indépendants. Et à l'époque, c'était en 1910, tout le monde s'est dit ouais. Et après ils ont révélé que c'était une galéjade. En fait, ils avaient attaché un pinceau à la queue de Lolo, l'âme de. Et ils avaient signé Boronali. Et c'était l'anagramme d'Ali Boron. Ali Boron, c'est l'âme du Moyen-Âge. Mais c'était, ouais. Et c'est un tableau peint par un âme.
Ah oui, c'est ça, oui, oui.
Mais c'était pas innocent, hein, l'âme. Parce que âme en grec, c'est onos. Et l'anagramme de onos, c'est nous, l'esprit.
Oui, oui.
Le Saint-Esprit. On descend.
Noé, si tu veux partir, alors on descend vers le métro ou qu'est-ce qu'on fait là?
Non, on descend vers.
Les personnes veulent peut-être partir.
Bah, ceux qui partent, ils peuvent partir.
C'est pas vrai.
On y va, mais je suis
on. De toute façon, métro et tout ça, ce serait par là.
Vous voulez qu'on file d'abord à on zappe l'église et on va directement en face Marie Blanche?
Ah oui, oui.
Mais on vient aimer l'église.
Parce que l'église, c'est pas mal là. Attention là. Tu zappes l'église.
Non.
Si tu commences à parler.
On la reprend ensemble. Ne t'inquiète pas. C'est infernal les bagnoles. Hein.
La petite carte du mandala chat. Oh. J'ai donné la carte du mandala. J'avais fait une peinture que j'avais appelée mandala chat. Et j'avais peur que plein de chats. Alors là, il y a le chat. Il regarde dehors pour moi. Hein. C'est parce que moi, je suis pas douée du tout. Je connais rien du tout. C'est tout ça. Ça, c'était l'œuvre noire, il était tout noir, il était dehors, il regardait à l'extérieur, il était un peu ignorant. Là, celui-là, il médite. Là, pour moi, c'était l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, mais j'ai pas pu peindre un chat rouge. J'ai fait un petit oiseau qui regarde la déesse Bastet.
C'est très marrant ce que tu as fait, parce que l'un de mes correspondants les plus érudits, oui. C'était Roger Mazelier, qui était le spécialiste de l'art de Nerval.
Ah oui.
Et pour la petite histoire, c'était aussi le fondateur des réseaux de résistance qui chassaient les collabos dans le sud-ouest.
Ah oui.
Sa femme appartenait d'ailleurs au réseau Françoise. Et puis il y a 20 ans, c'était déjà un érudit, qui faisait grec le matin, etc. Et on a correspondu sur la fin de sa vie, juste avant qu'il meure. Et il avait écrit un bouquin, justement, où il était question... C'était titré du chat roux au chat noir.
Ah oui.
Là, donc,
ah ouais,
il avait fait le lien avec quelque chose.
Ouais, ouais. À l'envers. Enfin, moi, c'est fait dans l'autre sens.
Mais il fait partie des belles rencontres que j'ai faites, ah oui. Mais un peu tardivement, parce qu'on n'était pas tout à fait de la même génération.
Il y a des choses quand même.
Et comme tu le dis, tout est une question de réception, d'intuition, de rencontres qui se font. C'est totalement...
Oui, moi c'est les chats. Bon, ça pourrait être autre chose, entre autres. Hein,
ouais, mais...
là, c'était un support. Moi, tu me parles bien.
Je trouve que tu... Il y a un bon ressenti chez toi, parce que compte tenu du fait que, comme tu me l'as dit, tu n'as pas de connaissances dans ce domaine-là au niveau intellectuel.
Ah non, rien.
Ton ressenti est tout à fait extraordinaire.
Ah bon,
c'est ce qui m'avait fasciné, si tu veux, dans ce tableau que j'avais demandé pour ma couverture.
Celui-là, quand les gens le voient, ils disent, oh là, je dis, oui, mais là, il n'est pas pour rigoler. Hein. Celui-là, il n'est pas fait pour nous faire des ronrons et nous plaire. Il est là pour que tu regardes à l'intérieur de toi. Bon, voilà la chose que j'avais voulu transcrire. Hein. Maintenant, après, le tableau vit sa vie tout seul. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais... Où est-ce qu'elles sont parties? Elles sont parties là-bas, de l'autre côté?
Tout le monde est parti de l'autre côté, ou quoi?
Elles sont là-bas. Alors, ah, bonne question. L'hippocampe, pourquoi il avait choisi l'hippocampe? Tout simplement parce que en alchimie, ce qu'on appelle la pierre philosophale, elle naît...
C'est Jésus.
Oui, c'est Jésus. Oui. Elle naît sans mère, elle naît du père, du souffre, alchimie. Pas de la partie mercurielle féminine, mais de la partie masculine. Et chez les hippocampes, ce sont les hippocampes qui portent les enfants dans la poche ventrale.
Est-ce qu'ils sont hermaphrodites, les...
Non, ils ne sont pas hermaphrodites. Ils ne sont pas hermaphrodites, il y a un mâle et une femelle, mais la femelle, elle pond, et c'est le mâle qui prend les œufs dans la poche.
Ah ouais.
Bah, c'est normal, puisque le mercure et le soufre, c'est la même chose, mais ce sont des états évolués, si tu veux, de l'énergie, de la lumière.
Ah ouais.
C'est ce que j'explique quand je parle d'alchimie. Quand je vous explique l'histoire de la glace, de l'eau et de la vapeur d'eau, le mercure, c'est ça, en fait. Hein. C'est la lumière qui se manifeste et qui se pour ici. On a eu trop de temps jusqu'à maintenant, mais là, le vent souffle.
C'est pour ça que tu faisais des hippocampes partout.
Voilà, tout à fait.
Mais
choisissaient un autre animal ou...
Bien sûr. Bah, comme les anciens choisissaient le serpent pour le mercure, par exemple. À Saint-Jean, à l'église Saint-Jean, qu'on va pas aller voir parce que j'ai autre chose de plus intéressant à vous montrer, mais Anatole de Baudeau, qui était l'élève de Viollet-le-Duc, il a créé un Saint-Jean avec une coupe à l'extérieur et il y a un serpent qui sort de la coupe. Bah, le serpent, c'est le Saint Graal, c'est la pierre philosophale, et le serpent, c'est le mercure. Alors c'est relié aussi à la secte gnostique dont le nom venait de Opis, qui signifiait c'était les Ophites, dont le nom était un jeu de mots sur Opis, les visions, mais les Ophites c'était les adorateurs du serpent. Donc en fait c'est la gnose qui s'est manifestée jusqu'au 19e siècle pratiquement.
Aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est?
Rien, il ne reste plus rien. Enfin, tout au moins rien de structuré si tu veux.
Mitterrand, quand il a fait ses...
Non, Mitterrand, c'était... Mitterrand, il a fait ça pour satisfaire une catégorie, si tu veux, d'électeurs qui étaient francs-maçons, ouais. Parce que son frère était grand maître en maçonnerie. Jacques Mitterrand était l'ancien grand maître du Grand Orient.
Ah ouais.
Ouais. Mitterrand n'a jamais été maçon, lui, apparemment.
Ah ouais.
Chirac a essayé, ils l'ont claqué la porte au nez. Il avait dit, sûr qu'on passait par par apprenti, on ne peut pas me nommer. Ils l'ont dit, non, chez nous.
C'est 33 grades avant, là.
Quoi que je vais te dire, moi, dans ce milieu-là, j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, on voudrait bien te récupérer. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais si on te nommait au 33e tout de suite, non, ça ne m'intéresse pas. J'aurais dit, moi, de toute façon, les rituels, ça ne m'intéresse pas. Je perds mon temps avec tout ça. Et puis en plus, vous venez me chercher finalement pour vous parler de votre propre symbolisme. Je vois pas l'intérêt d'aller chez vous pour quoi faire.
Pour rien y apprendre.
L'argument définitif, c'est de leur dire, vous savez, en plus, vous avez une période de silence qui dure 2 ans, je crois. Vous me connaissez suffisamment, j'ai une grande gueule, vous me voyez la fermer pendant 2 ans. Avec le nombre d'âneries que je vais entendre, je pourrais pas résister, je serais obligé d'intervenir. Non, parce que je me situe en fait, si tu veux, dans la vraie tradition des artistes libertaires, électrons libres, tu vois. Je déteste tout ce qui est ordre établi, les maîtres à penser, etc. Ça m'agace prodigieusement.
Non, communiste, il faut penser, et ça c'est pas comme si, c'est pas comme ça que ça fait,
je crois. Je connais pas un artiste authentique qui soit prêt à se plier à ce genre de discipline.
C'est pas possible parce que ça vient de l'intérieur, ça ne peut pas, ça ne marche pas.
Ça ne peut que venir de l'intérieur, parce que quand je vois la façon dont me parlent tes toiles, tu vois, c'est...
Ah bon.
Oui, Elisabeth est peintre et on se voit pour la première fois, mais on avait correspondu, parce que je cherchais de la doc pour mon bouquin sur Notre-Dame de Paris, et comme j'avais tapé dans le moteur Notre-Dame de Paris, ça m'a renvoyé à ses toiles.
Ah ouais.
Et il y avait son blog qui était très sympa.
Ma petite fille,
la mythe est la meilleure. J'ai trouvé ça tellement mignon que je me suis dit, je vais aller voir les toiles. Et là, j'ai eu un choc.
Je peux lui dire,
tu sais, si je suis en relation avec...
C'est grâce à toi.
Et c'est vrai que cette ouverture de fenêtre de Notre-Dame, tu vois, avec l'alchimiste qu'elle a descendu pour qu'on puisse le voir, parce que de là où elle le peignait, on ne pouvait pas le voir. Avec le chat, le mot vitriol, la rose, t'as la totale, quoi. Quand c'est pas la rose, c'est la pierre.
C'est la pierre.
Donc, et je me suis dit, c'est incroyable, mais...
Mais j'ai
où cette femme connaît ou elle connaît pas, mais c'est intuitif.
Mais je suis intéressée comme ça. Mais...
Et j'aimerais avoir le droit de reproduire son tableau en couverture de livre. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et alors ça tombe bien parce que le bouquin va s'appeler Notre-Dame de Paris, de la colombe du Saint-Esprit à la langue des oiseaux.
Ah, c'est super.
on fera. Tu auras ton talon, bonjour la couverture. Et moi je suis très honoré aussi.
Mais j'avais envie de faire des peintures, justement, en reprenant des morceaux de Notre-Dame, justement, de la chimie, hein, tout est là, mais en incluant des sculptures ou une petite niche où il y a un symbole alchimique et en mettant le vrai animal, ou une relation entre la pierre et un animal. En vrai, le vrai et puis ce qui représente.
C'est-à-dire. Emblématiser, imager le véritable bestiaire. Oui,
oui, voilà.
C'est une bonne idée.
Prendre, oui, oui, tout à fait. Avec ce que je sens, quoi.
Ouais.
Ça me plairait bien. Mais j'ai tellement de projets, faut que j'y prenne 1000 ans.
Ah, mais c'est moi, c'est pareil.
Mais je vais te dire, j'ai été le chômeur le plus occupé de France pendant 20 ans. Et maintenant je suis le retraité le plus occupé de France et d'Europe. Avec 3 à 4 bouquins en moyenne de publication par an. Et je n'ai pas le temps de penser. Hein, et encore, si je pouvais, j'en publierais 2 fois plus. Parce que j'ai tous mes anciens bouquins qui sont pas réédités. Le chat noir, le cours d'alchimie de Joder, ça n'a pas été réédité. Les contes Peter Pan et le petit chaperon rouge, plus le chat beauté, etc. J'ai pas le temps. Parce que si je les republiais comme ça serait facile, mais je suis un peu perfectionniste. Ce qui fait qu'à chaque fois que je réédite quelque chose, je réécris.
Ah oui, c'est pas facile hein, de retoucher à quelque chose.
En très autre chose. Mon épouse me dit, tu devrais prendre une secrétaire. Je dis, mais même pas, ça ne marcherait pas.
C'est pas possible. C'est marrant. Je ne casserai pas dans tes pensées.
Il y a un moment où j'écrivais des petits scénarios comme ça de mon métrage, tout ça, et puis j'ai retrouvé des choses que j'écrivais dans les scénaristes de Richard, parce que j'ai filmé Richard. J'ai filmé une conférence l'année dernière.
Saint-Germain, oui.
Sur un carton, d'ailleurs.
Ah oui. Et puis,
voilà, tout ce que tu dis sur la lune, tout ça.
Mais... violet, je sais pas quoi.
C'est incroyable.
Ah. Ça, c'est plus long, par contre.
Oui, oui. Ah, ouais, alors là, elle nous en parle.
Oui, il y a plein de gens qui parlent de Maître Saint-Germain.
Ouais.
Ça, ce sont les milieux New Age qui ont lancé
tout ça.
Avec les milieux canadiens. Après, c'est Louis Courtois et compagnie.
Ah bon ça,
même en France, il y a des gens, des médiums ou des choses.
Mais par contre. Par contre, il Saint-Germain l'intéresse. Moi, ce que j'ai publié, c'est une étude historique, pour une fois, où je suis le premier à dévoiler et à prouver qui il était en réalité, quels étaient ses parents.
L'homme physique.
Tu connaissais l'alchimie, c'est évident. Hein. Il y en a quelques preuves, j'en apporte quelques preuves dans mon bouquin. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui était sa mère et qui était son père, parce qu'il était vraiment de descendance aristocratique. C'est la seule raison d'ailleurs qui explique que Louis XV l'ait accepté à sa table. Louis XV était un monarque quand même très chafouin, très soupçonneux. Je suis sûr que quand il l'a reçu, il a dit « Mais montrez-moi vos titres de noblesse. » Et s'il n'avait pas pu les produire, il n'aurait pas été reçu. Et son aristocratie, personne n'avait pensé à le faire vraiment parce qu'il l'avait mal lu, même les experts. Je la prouve par son blason, par ses armoiries. Ben parce que il n'y a pas grand chose, il y a une bande de face. C'est-à-dire une bande qui coupe le blason dans son milieu. Et alors tout le monde disait c'est un bâtard, ça doit être le fils de la reine. Comment elle s'appelait ? Celle que met en scène Victor Hugo dans Ruy Blas.
Et
de l'admirante de Castille, donc ça sera un enfant adultérin. Et c'est pas possible parce qu'une bande de face c'est une pièce honorable. Et ça exclut la bâtardise. Quand on le sait.
Ben oui, bien sûr.
Et alors, après j'ai analysé, parce que sa mère était descendante de Medinaceli, c'est-à-dire la vieille famille d'Alphonse X de Castille.
Ah, d'accord.
Alphonse le Savant, qui était l'auteur d'un ouvrage d'alchimie aussi. Ah, hein, oui. Et donc les Medinaceli, c'est la famille de Pierre Dujol. Vous dites ?
Ah
oui. Ouais. Et oui.
Et lui, il avait écrit des trucs sur. Il avait pas fait écrire des trucs sur Notre-Dame de Paris, mais Dujol.
Dujol, non, il a écrit La Chevalerie amoureuse, Félibre, Rose-Croix et Troubadour. Troubadour, Félibre et Rose-Croix. Et Pierre Dujol, c'était un descendant des Valois Médicis. Ouais. Par le quatrième fils de Catherine, qui était le duc d'Alençon, François d'Anjou. Parce que François d'Anjou s'est marié avec Jeanne Adélaïde de Medinaceli. Ils ont eu un mâle, un enfant, qui n'a pas pu faire valoir ses droits à la couronne. Ce qui fait que les Valois Médicis ont été spoliés du trône au profit d'Henri IV.
Ah ouais.
Et il s'était passé la même chose sous Alphonse de Castille. Les enfants de la Cerdas, c'est-à-dire la famille de Medinaceli, avaient été spoliés du trône au profit de la branche collatérale. Et la branche collatérale, c'est celle qui amène au père de Saint-Germain, qui a épousé donc une femme qui appartenait à la dynastie qui avait été spoliée. Donc les deux dynasties se sont retrouvées au XVIIe siècle. Et alors donc, son blason, c'est un ciel coupé par le milieu, et ça se lit Medinaceli, le milieu du ciel. Ah, tout simplement. C'est tout bête.
Parce que c'est Pierre Dujol de Valois.
Pierre Dujol de Valois.
Si on continue, alors est-ce que vous pouvez aller des termes?
On va direct impasse Marie Blanc.
Il y a des gens qui viennent ou pas?
Oui, oui.
Annie, tu viens ou pas? Par contre, Noémie va vouloir partir. Tu vas avec maman, parce qu'après on descend en bas et on va prendre un
pont
après.
On va par là. On va aller voir le petit monument rose là, qui dit qu'on voit du pont. Tu le connais?
Non.
Là, tu vas te réjouir. Ouais. Tu vas pouvoir bombarder. Je te conseille les deux bois polychrome d'ailleurs qui soutiennent le balcon. Ah, c'est quelque chose. Hein.
Ah oui, alors tiens, parce que je n'ai pas pu écouter l'émission, Étienne Marcel, alors il y avait un rapport avec les nôtres, enfin les corporations des nôtres, elles sont...
Je sais plus, j'avais répondu à ta question pour l'émission. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions pendant cette émission. Ouais. Alors que je considère qu'avec Olivier, puisqu'on était tous les deux à l'affaire, c'était la meilleure pratiquement qu'on ait jamais faite sur cette radio.
Ouais.
C'était la plus didactique en tout cas, tu vois. C'était...
Ouais.
Mais j'avais placé la barre volontairement un petit peu plus haut pour éviter que tous les emmerdeurs viennent nous polluer l'émission.
Ouais, ouais, parler sans savoir et tout. Ouais, ou alors poser des questions.
Moi, je suis pas contre l'intervention, si tu veux, d'auditeurs, mais au moins que ça soit un peu intelligent, quoi.
Ah bah oui,
si c'est pour...
Ah bah, le 3 juin, avec Thierry, on s'en est pris une, mais le mec, il appelle à 1h20 du mat, et il nous pourrit, il nous phagocyte avec 15 minutes d'antenne.
Incroyable,
mais sur des trucs perso, tu vois.
Incroyable. On descend là. Bah, ça a tenu presque toute la journée. Hein. C'est...
Alors j'ai vu le film, ouais, c'est les Rennes des Sept, les trucs sur le vent des bois.
Ouais.
Alors j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce, oui, cet homme est devenu une légende, mais arrêtez. En fait, ce n'est qu'une légende. C'est pas, il a pas
non,
existé.
Non, il y a un personnage qui a servi de...
Peut-être un mec qui s'est avolé.
C'est un peu l'histoire de Jésus, tu vois, avec ouais. Judas Bar-Juda. Là, c'était un type qui s'appelait Fitzvarine, qui était un compagnon de jeu de Jean Santerre. Et en jouant, étant adolescent, Jean Santerre a triché. Et son copain Fitzvarine lui a balancé un coup. Et l'autre, il est plein à son père en disant « Faut absolument que tu le punisses ». Son père lui a foutu une baffe en lui disant « Fais pas chier, t'as qu'à pas tricher ». Et donc, quand ils ont été adultes, il a essayé il s'est emparé des terres de son enfant, de son copain d'enfance.
Ouais.
Et l'autre, il l'a fait prisonnier, il a récupéré ses terres.
Prosaïque et moins.
Mais c'était effectivement un personnage haut en couleur. Alors, c'est par la classique. Déjà, tu vois la tour néo-gothique.
Ah oui.
Dans Paris, c'est quand même extraordinaire.
On est
à Passe Marie-Blanche. Alors oui, parce que dans le temps, il y avait des anciens carriers qui passaient là avec les chariots et ça répandait des traînées de poudre.
Oui, oui, oui.
Et d'où le nom Impasse Marie-Blanche. Non, ça va, tu vois, je suis bien entouré là. Franck, il va attraper une crampe.
Et ça, c'est la maison quoi ? Escalopier ?
Escalopier.
Ah, c'est une grosse maison.
Non, bah ça se calme, ça.
Ouais.
C'est un peu de chance, on va pouvoir...
Ça, c'est une maison de fin 19e, quoi.
Fin 19e, oui.
Ouais,
milieu 19e, je crois.
Mieux par là, non ?
Non, le personnage, vous savez qui c'est ? C'est Quasimodo.
Ah, oui, d'accord.
Ah, oui, Quasimodo.
Oui, en effet. Ou la parapluie ?
Voilà. Alors, si vous voulez vous regrouper, parce que ma voix ne portera pas jusque là-bas,
c'est pire, hein. Voilà, maintenant...
C'est quoi une éclipse ?
Non.
Nous l'aurons avant.
Attends. Je
vais protéger. Je vais même avoir un petit texte quand même sur la question. Pour être très précis, mais sinon j'ai ça en tête. Hein, c'est pas.
C'est habité ça ?
C'est habité, oui.
Putain, mais c'est des friquets qui habitent là-dedans.
Non, c'était un ferronnier, je crois, puis ça a été transformé en je ne sais plus quoi.
Hein ?
Ça a été transformé en je sais plus quoi. C'est une société.
Ouais.
Oui, c'est ouvert. Oui.
On peut visiter.
Donc je vais vous passer l'histoire des propriétaires entre 1892 et 97, parce que ça remonte à avant en fait, hein, cette histoire. En fait, c'est un personnage qui s'appelait Charles d'Escalopier, qui est né dans la Somme en 1812 et décédé en 1861, donc il n'a pas vécu très vieux. Et comme son nom l'indique, ça n'a rien à voir avec l'escalope. C'est en fait une traduction d'un ancêtre qui vivait à Vérone au moment de la Renaissance et qui s'appelait Piero della Scala. Et donc ils ont fait un à peu près phonétique en translation française et ça a donné l'escalopier au lieu de Pietro della Scala, tout simplement. Alors le personnage de la famille d'Escala ou Scaligeri, voire Scaliger, comportait un second exilé célèbre ayant trouvé en France. C'était Jules César Scaliger. Ce dernier était un érudit, dont le mage Nostradamus disait qu'il était un personnage incomparable, sinon à Plutarque. C'était quand même un bel hommage. Cette famille prestigieuse, dont la noblesse est attestée dès le XIIe siècle, régna sur Vérone jusqu'au XIVe. Chassé par les Vénitiens et réfugié à Paris, Piero della Scala, ainsi que le rappel de Vers, renversé de fortune, il renversa son nom. L'escalopier dit son nom pour Piero l'Escale. Alors, le descendant, donc, c'est le comte Charles Escalopier, orphelin de père très jeune, il est élevé par sa mère, qui lui donne le goût de la lecture. En 1935, lorsqu'il fit bâtir cette demeure, bon. Alors celle-là, elle a été bâtie en 1935. En fait, il l'a bâtie parce que ce qui était à la mode à l'époque, c'était les romans de Walter Scott, d'où ce néo-gothique. Et à l'époque, il avait construit des serres ornées de roches, de bassins, chauffées à la vapeur. On pouvait y admirer des variétés rares. Il y avait des bananiers, des papayers, des arbres à pain, etc.
Dans Paris.
Dans Paris, oui.
Ici, c'était là.
Et donc, le comte, il a détruit tout ça, un beau jour, et il a remplacé ça par une immense bibliothèque. Comme le rappelle la borne, il y avait 5000 volumes, hein, quand même, ici.
Ah, d'accord.
Alors, c'était un érudit modeste, dit-on, de la race de ce produit par le 19e siècle, et c'était surtout un ami de Charles Meudier, qui était à l'époque conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal, où il y avait tout le fond alchimique et ésotérique, en général. Et Meudier était très lié notamment avec Victor Hugo, avec Dumas et avec Nerval. Donc ça explique pas mal de choses. Et il a été nommé conservateur honoraire de la Bibliothèque d'Arsenal, c'est ça je l'ai dit. Non, c'est l'Escalopier qui a été nommé conservateur honoraire de la Bibliothèque d'Arsenal, dont Meudier était le conservateur en chef. Alors si vous regardez le symbolisme alchimique, effectivement vous avez deux fresques qui sont sculptées dans la pierre. Il montre des femmes au travail, un petit peu par là. Or, l'alchimie est toujours qualifiée de travail de femme. Vous avez des jeux d'enfants. Or, c'est aussi qualifié, c'est travail de femme, jeu d'enfant, l'alchimie, c'est ce qu'on dit en général. Il y a une petite vierge, là, au-dessus de la porte, qu'on interprète.
Elle tient comme un maillot.
Elle a un petit chien.
Un petit chien. Alors, un petit peu à une œuvre de Raphaël.
Alors, elle a un petit chien. Voilà. Elle a un petit chien pour une bonne raison. C'est que c'est la vierge minérale, c'est la matière alchimique en réalité. Et le chien, c'est le symbole d'Hermès Mercure. C'est ce qu'en chrétienté, on a traduit par Saint Roch. Saint Roch, il est toujours accompagné d'un chien. Ben, Saint Roch, c'est Hermès en réalité. Et le Mercure, donc Hermès, c'est l'agent de l'œuvre. C'est la lumière en réalité. Hein. Vous avez deux pièces de bois polychrome donc qui sont quasimodo. Or le roman de Hugo, il est totalement alchimique. Rappelez-vous, Frollo, c'est le prêtre, l'archidiacre alchimiste, amoureux d'Esmeralda. L'Esmeralda, d'ailleurs, l'écrit Hugo, c'est l'émeraude. C'est l'émeraude des sages, c'est la pierre philosophale. Frollo, c'est l'anagramme de l'or folle. C'est l'or fou, c'est l'or qui n'est pas arrivé à maturité. Pierre Grégoire, bah, c'est deux fois la pierre, parce qu'en fait c'est la même étymologie. C'est celui qui pratique les mystères et qui est instruit en alchimie. Hugo l'écrit noir sur blanc. Quasimodo, c'est un enfant qui est laid, bossu, difforme, borgne. C'est la description de la matière qu'on donne. Elle est repoussante, elle est vile.
Et la chèvre?
La chèvre, c'est le Capricorne, en fait. C'est la constellation du Capricorne et c'est le signe du Capricorne également. Il y a Phébus également, le soleil, hein, le beau capitaine dont Esmeralda est amoureuse, qui va causer sa perte. Et Quasimodo, eh bien, comme l'écrit Hugo, mais vraiment très nettement dans son livre, c'est un à peu près de la nature. C'est un chaos. C'est le chaos alchimique. C'est un quasimonde. Pardon. Donc ce sont des jeux de mots, en fait, hein, tout simplement. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le comte, il a fait don de sa bibliothèque à sa ville d'Amiens, laquelle a abrité, vous le savez, Jules Verne. C'est là que Roussel est allé le voir. On lui avait dit d'ailleurs... Et à l'époque, Roussel disait, on s'est serré la main. Ils n'ont pas dû faire que ça, c'est un savant usage de l'euphémisme. Mais Verne avait une sacrée réputation, parce que dans le coin, on disait, ne laissez pas les petits garçons s'approcher de lui, hein, quand même. Ah. Il paraît qu'il était plutôt pédophile. Hein.
Ah. Donc, déjà
oui, déjà. Et alors, non, moi j'ai eu la curiosité d'aller voir la bibliothèque du comte, elle est recensée quand même.
Non, Jules était pédophile. Alors là, tu me déçois.
Ben non.
Je vais tous être déçus. Hein. Et dire qu'ils nous ont appris ça à l'école.
Ouais. C'est justement pour les petits enfants.
Des pervers les instituteurs.
Oh. Alors, dans la liste de ces ouvrages, on trouve des traités de diplomatique. C'est un autre nom de la langue des oiseaux, comme par hasard. On en trouve d'autres concernant le gai savoir de Rabelais, donc c'est la même chose. Les sciences occultes et l'alchimie. Il y a des ouvrages consacrés au symbolisme, dont la somme que constitue l'iconologia de César Eripa. C'est un des maîtres livres du symbolisme dans la pierre, dans la sculpture. Et alors, ce qui est très curieux, c'est la petite anecdote qui a trait à ce personnage. À l'époque, sur des renseignements fournis par le comte Escalopier lui-même, en 1842, M. Dorossi découvrit à Rome les restes d'une martyre chrétienne. les reliques rapportées de Rome firent l'objet d'un don à la ville d'Amiens, dont la sainte était soi-disant originaire. La sainte présumée se nommait Theodosie et aurait été l'épouse d'Aurelius Octapus. Tout ceci, évidemment, c'est à mettre au conditionnel, puisque quand on a étudié un tout petit peu de grec et de latin, on va faire la traduction pour s'apercevoir qu'on est en présence d'une légende hermétique. Que Theodosie soit un prénom formé sur le grec Théo et Dosie, la grâce divine, c'est évident. Quand on sait l'importance qu'a le bonhomme Dei, hein, donc la révélation par le songe, c'est de ça qu'on parlait dans la rue tout à l'heure, ça explique pourquoi il y a cette espèce de jeu autour de la grâce divine, autour de Dosie. Hein, on sent bien qu'il attire l'attention sur quelque chose. Et donc la translation des reliques à Amiens fut faite par un évêque qui s'appelait Antoine de Salinis. Donc le sel, tu vois déjà, c'est un peu bizarre hein, comme histoire. Et ce dernier, donc Antoine de Salinis, il avait été directeur du collège de Juilly dans les années 1830. C'est dans ce même collège, vers la fin de cette période, qu'un certain Alphonse Louis Constant, plus connu sous le nom d'Eliphas Lévy, le fameux mage du 19e siècle, donc Eliphas Lévy, à l'époque, il était surveillant. Il avait été nommé là par protection de Monseigneur de Bonne Chose.
Ah ouais. Et Rennes-le-Château.
Donc ça renvoie à Rennes-le-Château. Tu vois, c'est... Jules Verne et Grasset d'Orsay, qui sont nés la même année, en 1828, étaient tous les deux étudiants au sein de ce collège. Donc la boucle est refermée. On a à la fois Grasset d'Orsay, Alphonse Louis Constant et Eliphas Lévy, Jules Verne, et Monseigneur de Bonne Chose. Donc ça renvoie bien à Rennes-le-Château. Alors, pour ceux qui éprouvent encore des doutes sur le côté un peu hermétique de la légende, eh bien ils peuvent méditer sur le fait que les restes de cette sainte furent soi-disant découverts à Rome dans les catacombes dites de Saint-Hermès. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Alors il était picard, hein, l'escalopier, enfin picard d'adoption, hein, puisqu'il était parti à Amiens. Et tu sais que tout le monde sait qu'il y a les rébus de Picardie, tout à fait, bien sûr. Petite anecdote supplémentaire, ce fut l'escalopier qui avança des fonds à l'époque à un personnage devenu célèbre pour qu'il installe son premier cabinet rue de Valois à côté du Palais Royal. Et ce personnage qui est devenu célèbre, c'était Robert Houdin, l'illusionniste. Celui qui a servi de modèle au célèbre prestidigitateur américain, Houdini. Puisqu'en fait, c'est le français qui a précédé Houdini.
Hop, on va se faire. Ah, il y a des voitures
qui... Ah, quelques-unes.
Même là, il y a des voitures. Je mets ton chiffre
en bas. En fait, t'as un Picard, c'est la langue, c'est pas toi Picard qui...
Oui, tout à fait. C'est le... Puis c'est l'origine de la langue des oiseaux aussi. Hein. C'est comme ça que ça se fait véhiculer. Enfin, le grec
c'est
ancien.
La langue d'oil, non, le picard en fait.
La langue d'oil.
C'est la langue d'oil.
De toute façon,
que
ce soit la langue d'oc ou la langue d'oil, ça se prêtait admirablement aux à peu près phonétiques. Comme le grec ancien. Comme le français.
Mais le français, c'est en fait, le français comparé actuellement, c'est... il vient d'où? Il vient de
la
langue d'oil. Il vient de
Grèce.
De Grèce.
Il vient de Grèce et il a été, si tu veux, il s'est imprégné de dialectes locaux, de sabir, etc. Il s'est enrichi à partir de tout ce qu'il a pu attraper comme dialecte. D'où le fait que je ne suis pas contre que de nouveaux mots utilisés par la jeunesse dans les banlieues rentrent au dictionnaire, si tu veux.
Ouais.
Sauf que il y a quand même une...
Oui, parce que ça, c'est l'évolution de la langue aussi, il faut pas non plus...
Sauf qu'il y a quand même une perte d'intelligence et de culture.
C'est...
Voilà.
La référence à une culture, ouais, télé, tout
ça. Bon, ça a été un peu rapide parce qu'on était pris par le temps. À part plus tout voir. Alors c'est pareil, je voulais vous faire passer aux abbesses parce qu'il y a l'église Saint-Jean. Et il y a deux beaux vitraux qui représentent... Non, on n'y va pas.
Ils sont à Saint-Jean d'Ascanie.
Il y a deux beaux vitraux qui en fait représentent deux des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mais seulement deux.
Ah oui.
Ce qui au point de vue esthétique, artistique et... Et je dirais symbolique, est un peu curieux, parce qu'en général, ils sont tous les quatre. Et là, comme par hasard, il y en a qu'un qui est monté sur un cheval blanc et l'autre qui est en rouge. Et là, ça représente simplement le cavalier blanc, le cavalier rouge, parce qu'en alchimie, vous n'avez que deux œuvres. Ce qu'on appelle improprement l'œuvre noire, c'est pas un œuvre, c'est la putréfaction, hein, c'est le début, c'est ce que j'appellerais le sous-œuvre ou l'œuvre préparatoire. Et ensuite, vous avez l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, deux œuvres. La décomposition, c'est la fin, si tu veux, de la matière qui est en train de se putréfier, qui va renaître. Si tu sais très bien que si tu mets une graine en terre, il faut qu'elle pourrisse pour qu'elle germe ensuite, et c'est le germe qui va croître. Hein? D'où, toute la première partie, c'est la lune et l'humidité lunaire et les eaux de pluie qui vont favoriser la putréfaction, et dans un deuxième temps, c'est le soleil qui va prendre le relais.
La lumière,
toujours. D'ailleurs, Phos, qui était le nom du... Phos, qui était le nom du deuxième rédacteur de la... Enfin, le rédacteur de la deuxième règle de l'ordre du temple, il s'appelait Roncelin de Phos. Phos, ça veut dire lumière. En grec.
Ah oui.
De toute façon, le français c'est du grec. C'est du grec recouvert d'une couche de latin, contrairement à ce qu'on raconte.
Ah oui, c'est plutôt du grec que du latin.
Fulcanelli l'explique bien dans son bouquin, parce qu'il dit voilà, c'est pas possible que ce soit du latin, parce que quand les armées romaines sont arrivées en Gaule, il y avait plus de Gaulois que de Romains. Et en plus, la plupart de ces gens étaient illettrés, ils signaient leurs engagements d'une croix. Comment voulez-vous qu'ils soient les pédagogues de gens qui possédaient leur propre langue, qui avaient leurs propres coutumes? En plus, ils étaient dans des camps retranchés, distants de 100 km des fois. Il est impossible de faire œuvre de pédagogie dans ces conditions-là, tu vois, c'est totalement aberrant. Et comment aurait-il réussi le miracle, non seulement d'enseigner une langue, mais de lui substituer la langue d'origine, alors qu'ils n'ont réussi ça dans aucun pays d'Europe? La Gaule est le seul pays où le latin aurait supplanté la...
C'est pas possible. Oui, mais après, pourquoi le grec, alors?
Parce qu'il y avait eu les colonisations grecques de la Gaule. Dès que tu vois des monuments polyédriques, tu sais, comme ce monument, ce cénotaphe qu'on voit chez Poussin, dans les vergers d'Arcadie. C'est un cénotaphe, en fait. Ces monuments polyédriques, c'était des monuments que les Grecs hellènes avaient laissés sur place quand ils avaient colonisé la Gaule. Et d'ailleurs, la légende de Paris, c'est qu'elle aurait été construite par Paris, qui était un descendant de Priam, soit par une arrière-garde de Hercule, d'Héraclès. Alors la légende est fortement accréditée, ils l'ont enjolivé, puisque quand ils quittent Lutèce, ça vient de Aluto en grec, qui veut dire graisse de terre. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était marécage avec de la boue. Ils ont dit, Aluto, c'est gras, c'est fertile. Et Héraclès est reparti. Il a traversé la France, la Gaule. Et il est reparti par les Pyrénées. Il a vaincu la reine Pyrène, Vendrix Pyrène, d'où le nom de Pyrénée.
C'est une légende aussi, Héraclès.
Bien sûr que c'est une légende. Mais si tu veux, l'histoire s'écrit à travers les légendes et les mythes. Ce sont les mythes fondateurs des civilisations.
Oui.
Bon, je vous suis, on monte.
Attends, il y a des gens qui veulent partir.
Là, c'est le pollen. Hein. Souviens-toi, Bagatelle.
Ouais.
C'est l'horreur.
C'est vers la place Clichy. On allait prendre un pont ou pas?
Elle est où, la place Clichy?
Elle est loin, la place
Clichy. Non, on passe le pont et on arrive directement.
On va à place Clichy.
Tu t'en vas?
Il faut repasser par là.
Tu m'avais pas amené Ferrin.
Mais c'est pas de bol, quoi. Bagatelle, elle était pas...
Ah ouais, ça c'est...
Tu te souviens?
Ça c'est...
Le pollen, c'est... Alors, le pollen, moi, c'est pas sur le... C'est sur les yeux que ça tombe.
T'as pensé à Ferrin?
Merde! Voilà. Cette semaine, j'ai qu'une nuit, je t'apporte la clé. J'avais tout mis dedans. J'ai mis tout dedans.
C'est pas grave, c'est pas dramatique. Je te pose simplement la question parce que j'étais sûr que tu l'avais oublié.
Vous lavez les goûts.
Ouais, c'est bien, il est bon. Ah.
Ah, ma pauvre Sherazade, c'est pas drôle d'être. Alors que moi je suis pas trop allergique, mais quand ça me tombe dans les yeux quand même.
Avant je faisais des piqûres de cortisone, mais.
Ouais, c'est pas terrible non plus pour le système nerveux. Voilà. Hein,
c'est circulatoire aussi. Pour l'homéopathie, mais.
C'est pas assez fort. On descend par là, mais je vais rendre son... Tiens, tu récupères.